Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique avec et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites-leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast! Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, c'est un invité, sonorisateur et chef son.
Chef son.
On va en parler un peu plus.
Ouais.
C'est Thomas Duchesne. On a reçu...
un homme formidable.
Salut Ben.
Allô.
Salut Pierre-Marc.
Salut Matt.
Grosse discussion. Thomas, qui est un ami aussi.
On
connaît bien depuis quand même plusieurs années.
Thomas le connaît depuis que c'est un adolescent.
Ben oui, moi je l'ai coaché à l'impro secondaire. Ouais, on l'a booké ses bandes dans la fée.
Sa mère était une grande fan d'impro aussi.
Oui, c'est vrai.
Ouais. J'ai travaillé avec sa mère longtemps aussi.
On va parler un peu de son parcours de Alma jusqu'à Montréal, jusqu'à l'Abitibi, finalement, retour en région. Où il travaille maintenant comme chef son. Donc, il fait un excellent boulot d'ailleurs comme chef son.
Il est vraiment bon dans ce qu'il fait.
Puis,
une belle référence.
Plein de belles anecdotes. On a name-droppé plein de noms d'artistes. On a parlé de tout ça. On est allé loin quand même. On a parlé de complotisme un peu. On est allé des États-Unis, Donald Trump.
Ouais, on a touché à plein de sujets, autant que sa carrière.
On a essayé de canceller Benoît. Vous devez attendre à la fin du podcast pour savoir si on a réussi.
Ça va être le podcast la semaine prochaine.
Vu que t'es dans l'intro, je guess que t'es pas vraiment cancellé, mais bon.
Ben, l'intro, c'est avant.
Ouais, c'est ça.
Dans l'autre
mais là, on parle de ce qu'on a discuté, puis c'est avant. C'est vraiment weird.
On va le voir dans 4 diffusions.
merci à nos partenaires, La Rouge Bureautique. On le souligne avant l'intro, mais juste merci.
Merci à la Roche Bureautique. Ouais, tu m'as pris de court. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne les a pas présentés.
Tout leur service en automatisation, puis photocopieur et tout ça. Fait que merci beaucoup.
Les experts de la solution.
Ils sont partis en région.
Ils sont partis pour l'été avec Chantal Lacroix à l'AQS. merci à Steve, à la régie toujours.
Merci Steve. Maintenant, il faudrait l'inviter, Steve. Il faudrait que le monde voie cette belle bouille.
Je pense qu'il est pas prêt.
Il est pas prêt.
Je sais pas, faudrait le demander. Il se pratique avec son podcast Cinématé.
Oui, il y a un podcast. Bon.
Ouais, fait qu'aller écouter ça sur Mediaté.
Il se prépare avec. Il travaille dans une petite boîte aussi, Mediaté, justement.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Il se pratique là. Carton, puis, mec, c'est devenu plus big, on va l'inviter aux productions assez.
Ouais, c'est ça.
Bon podcast.
Appropriation culturelle.
Fait que sur la route, vous avez les 58 puis le zoom. Puis ici, pas mobile, t'as la roadcaster avec les micro-roads.
Parce que sur la route, souvent, des fois, il y a plus de monde. Ici, t'as plus de monde, ça commence à être serré.
Puis on contrôle les invités ici, tandis qu'au théâtre, non?
Ouais, c'est ça.
Puis les 58, c'est plus facile à gérer.
Sur scène, c'est plus cool.
Ouais. Ben, tu utilises-tu les presets qu'il y a dans la Roadcast?
Ouais, les presets de Rode. Là.
Mm-hmm. Mm. J'imagine pour ça marche bien. Pour les 58, je ne sais pas, ça marchait bien, mais en tout cas.
Ouais,
ok.
Ben, ça, c'est des micro-Rode avec une console.
Ouais, ben, c'est ça. Qui se connaissent. Tu as drivé la Rode un peu, là?
Un peu. J'avais aidé une madame Diane. Cahouette,
oui, c'est ça.
T'as travaillé avec Diane.
J'avais aidé Diane à starter son petit podcast.
C'est lui qui me l'a chippé.
J'ai manqué de temps, puis j'étais comme, j'avais plus le goût, honnêtement. Là, j'ai fait, Chris, je pourrais chipper ça à Benoît, là, tu sais, il fait ça. Chris, il serait bien meilleur que moi, en plus, pour l'aider, là.
C'était dans le temps de pandémie où tu disais oui à tous les projets, dont montage, trip à
3. Ah ouais, c'était dans le temps de pandémie. Personne ne me connaissait, fait que j'avais aucun projet intéressant. Là, j'ai choisi.
Parce que c'est quoi, t'es arrivé à Moscou, dans le fond?
Moi, je suis arrivé en plein pendant la pandémie.
C'est ça, hein?
Ouais.
Ben, en fait, je dis, c'était ton retour, là?
Ouais, c'était mon retour, mais moi, la pandémie a starté, puis je suis arrivé comme une semaine après. En me disant, ça va t'offrir deux semaines, esti.
Ouais.
Ça va t'offrir deux semaines, je vais retourner chez papa, maman, je vais manger gratis. Je vais gagner un peu d'argent parce que je savais que j'étais capable de travailler à ce moment-là, tu sais. Là, j'ai fait, finalement, deux semaines, c'est transformé en un mois, deux mois, trois mois. Puis là, ça fait trois ans et demi, j'ai décidé de jamais repartir. Faudrait peut-être que j'appelle mon landlord.
Jean-Pierre, hey, by the way, je prendrais pas l'appart.
Je t'ai rendu à Montréal à ce moment-là.
OK.
Je pensais que t'étais parti direct d'Alma après ton cours. T'as travaillé à Montréal, toi, après ton cours.
Ouais, c'est ça, quand j'ai... quand j'ai fini à Alma, j'ai passé l'été là parce que je savais qu'à Alma, j'étais capable de travailler tout l'été sans problème. Okay.
Sur le Festiram ou quoi?
Pas Festiram directement. Ben, ouais. J'ai travaillé sur Festiram par la champ gauche.
Ouais, ouais, ouais.
J'ai travaillé pour Solotech justement qui s'occupait du Festiram. Mm-hmm. J'ai travaillé dans des bars parce que je faisais déjà des shows dans des bars quand je suis au cégep. Puis c'est ça, je me suis dit que cet été, je suis capable de me booker, j'ai aucun problème. Mais à Montréal, je le sais pas, c'est un peu plus ambigu. Fait que je vais piler du cash, comme ça, mais que j'arrive à Montréal, j'aurai pas trop de stress, je vais être capable de prendre ma place, assis, puis manger, puis vivre, tu sais. C'est ça mon point. Puis, fait que c'est ça. Fait que je suis passé l'été à Alma, après ça, je suis parti à Montréal, j'ai resté là après 8 mois.
Aussi. Automne 2019, ça veut dire, là?
Non, c'était en mars.
Carrément, OK.
Moi, okay. Dans le fond, c'était pas exactement au début de la pandémie. Quand on a commencé à entendre parler du COVID,
ouais, ouais.
Moi, honnêtement, je prenais ça un peu à joke. Je me disais, hey, ça arrivera jamais. Ouais, ça arrivera jamais. Ça, c'est pas nous autres.
Ouais, ouais. Il y a bien du monde qui pensait ça aussi.
Le SRAS! Ouais.
C'était en Chine. Ça arrivera pas ici.
C'est comme la H1N1.
Exact.
C'est le SRAS. Là. Même.
Puis c'est en mars 2020, ça se peut-tu? Ouais, ouais. Mars 2020. Ouais, ça, ouais. Là, ils ont fermé les salles de spectacle. Puis moi, à ce moment-là, je travaillais à Saint-Eustache au Zénith.
OK.
Puis j'étais en pleine semaine de show. Je me rappelle, j'avais même pas défait mon show de la veille. Puis je savais que mon show de cette journée-là était assez similaire. C'était une semaine où je faisais genre 6 shows d'humour.
Ouais, ouais.
Fait que là, je me lève le matin. Je vois que les salles de spectacle sont fermées. Là, je suis comme, fuck, si j'envoie un message au directeur technique, je dis, yo, il se passe quoi? Là, man, t'es pas le premier à me texter. Là. Laisse-moi une heure ou deux. Là, je vais vous envoyer tout un email vous expliquant ça. Puis en gros, ce que ça disait, c'est vous avez plus de job pour une durée indéterminée.
Chômage.
J'ai fait, oh, ben c'est plate, c'était une semaine payante que je viens de scraper en plein milieu. Okay. Puis je pense. Ben, en
t'étais
fait,
à pige à ce moment-là ou?
Ouais, j'étais à pige.
Okay, ouais.
100% à pige à Montréal. Je faisais cette salle-là. Puis je faisais aussi des petits contrats par-ci par-là au centre sur l'île. Mais je passais la majorité
c'est de mon temps ça à Montréal, c'est plus comme ça que ça marche. Là. C'est de la pige pas
ouais,
mal de temps.
Oui, beaucoup plus de pige.
C'est
rare. Tu sais, ici, je suis un employé, là, mais ouais, c'est ouais. Assez rare les salles de spectacle.
Les salles municipales à Montréal.
Les salles municipales, c'est ça. À Montréal, il n'y a pas vraiment de salles municipales de ce que je sache.
C'est ça,
ouais. Du moins, aucune où j'ai travaillé.
Que? Non, c'est ça. C'est pas le même modèle. Là.
Non, non.
En tout cas, il doit y avoir un DT par salle, puis après ça, c'est du backup.
Ouais, ben ça ressemble à ça. C'est un DT. Généralement, il va avoir un chef son, un chef élec de base. Puis après ça, le reste, c'est des pigistes. Peu importe qui arrive. J'ai besoin de 3 électros, ben je vais trouver les 3 électros qui sont disponibles. Je vais les prendre. J'ai besoin d'un soundman, je vais prendre le soundman qui est dispo. Moi, j'étais à la pige, mais j'étais un peu placé du sens où j'étais pigiste, mais j'étais 2e soundman officiel. Le premier étant Mike, whatever, Big Mike, qui est le Godman des Cowboys Fringants.
Oui.
Reconnu un peu pour son air bête. Mais moi,
ouais. Ben, Patrick Gros dans les Gros Luxe, c'était un des morons. Je ne sais pas si tu as écouté ça un peu.
Oui, j'ai écouté le Gros Luxe. Ouais. Je l'ai écouté ça quand j'étais très jeune, parce que c'est pas ma génération.
Il était aussi, je pense, DT de Patrick Gros un bout aussi, je pense.
Ah ouais,
c'est ça. C'était-tu le bonhomme avec la bédaine?
Les gros cheveux, les cheveux longs.
Ouais, les cheveux longs.
Gris un peu, puis un baraqué.
Ouais, exact.
C'est ça.
Ouais, c'était Big Mike. Puis c'est ça, lui, quand il partait en tournée, dans le fond, je prenais sa place. J'allais faire chef son dans cette salle-là, puis... Fait que dans le fond, si ça allait bien pour les cowboys, je travaillais. Ce qui veut dire qu'une astie de chance que je suis plus là.
T'aurais perdu ta job?
Ben, en tout cas, j'aurais été là pas mal moins souvent, je pense. Là.
Ben, en même temps, t'aurais eu un bon 3 ans. Là.
Ouais, c'est ah, ouais, ça. J'aurais probablement commencé à d'autres choses.
Mais tu sais, c'est quand même cool que tu t'es ramassé chef son, Chris Mangin, pareil, dans une salle de backup.
Ouais, ouais.
Ah ouais, Chrisman. Puis c'est arrivé. En fait, j'ai été chanceux. Mais je pense qu'on crée notre chance, puis tu sais, on se connaît, là. Moi, je pense que j'ai une pas pire attitude, puis je suis quelqu'un d'assez sympathique.
Non, t'es chiant, ouais.
toxique.
Ah, OK. Ben, c'est bon à savoir. Si je
c'est des blagues.
On est réglé nos grossiers.
C'est des blagues. All right, dites-moi, là, les gars, comment je vous ai fait mal?
Le show de créatine, là, t'avais été déplaisant.
Ça se peut très bien. On en reparlera de ça. Ah, il faut que je vous parle de quelque chose là-dessus, parce que vous allez trouver ça très drôle.
C'est sûr.
Ben pour finir aussi, je m'en allais. Moi, c'est arrivé, c'est que justement, je travaillais au Lac-Saint-Jean dans une petite salle qui s'appelait, je m'en rappelle plus, c'était à Péribonka sur un genre de camping.
Oh shit.
Il y avait une salle de spectacle.
Déjà, faisait... ça promet.
Mais pour vrai, c'était une belle salle de spectacle. On faisait des beaux shows. Puis j'avais accueilli Dumas. Puis dans la salle de Dumas, son soundman, c'était Rosaire, qui lui est le directeur technique du Zénith. En fait, c'est le directeur technique de toutes les salles gérées par la tribu.
OK.
Qui est l'agence de
booking. Ouais, ouais.
Fait qu'eux autres, il y avait genre 4 salles. Le Zénith, le National La Tulipe, puis une autre où que je suis jamais allé, mais je suis allé au Zénith, puis à La Tulipe, au National, puis au Zénith.
Big Mike qui fait l'été du Zénith, qui est l'été des Cowboys fringants, Rosaire.
En fait, Rosaire est centre Man FOH des c'est Cowboys fringants, puis
okay,
tout est lié. Ah, hein. Okay.
C'est que c'est beau.
Fait que milieu.
On fera l'organigramme à la fin du podcast.
Ça va être le visuel de fin.
Comment ça marche?
Fait que pour continuer, c'est ça. Je fais cet accueil-là. Je fais juste accueillir. Je mixe pas. Je fais pas d'éclairage, rien. Mais le gars trouve que j'ai une bonne attitude. Puis il a eu du fun. Il dit, Chris, tu t'en vas à Montréal? Lâche-moi un whack. J'ai besoin d'un gars comme toi. Je fais comme, man, ça tombe bien. Je m'en viens dans 3 mois. Dans 2 mois. Ah ben, tu me lâcheras un call. Puis fun fact, entre-temps, moi, j'avais noté son numéro de téléphone dans mon téléphone. Mon téléphone est mort. Fait que j'ai perdu son numéro de téléphone. Man, j'étais là,
Il est mort.
Impossible, j'ai essayé de le brancher, j'ai essayé de sortir les données. J'étais comme, fuck. J'étais allé dans une genre de shop de téléphone, puis ça... Où qui ont pu ressortir mes données. J'ai payé genre 150 pièces qui sortent mes données, man. J'étais pauvre au coton. Ça a coûté bien trop cher, mais moi, j'avais besoin de ce numéro de téléphone. Là.
C'est pour bien moins cher que ça. Desjardins, ils ont sorti toutes nos données.
Non, non, ça a coûté plus cher, Matt.
Ça a coûté plus cher. Je connais des gens qui ont reçu un beau chèque de 900 en pièces dans mal.
Écrit, j'ai pas reçu ça, moi.
Ouais, ben, je pense qu'il fallait que tu remplisses
un formulaire. Ouais, formulaire.
Moi, je l'ai pendant fait. Ce temps-là, je faisais mon passeport.
J'ai eu mon 50 pièces.
Ouais, ah,
oui. De temps, là.
Ouais. Moi, ils m'ont donné accès à. Comment ça s'appelle l'affaire de crédit?
Visa?
Non.
Mastercard?
Non. Equifax, merci Steve.
Amex. Oui, oui, c'est ça, okay, ouais.
Steve, l'homme de toutes les
Equifax.
Savoirs.
Equifax? Ouais, ben oui, ils ont donné
ouais,
ça
ouais, tout le monde. Je sais, c'est ça, gag. J'ai oublié c'était quoi, fait que le gag était plus bon.
Moi, je me suis pas fait chier parce que j'étais comme, ben, finalement, je pense que mes données ont été correctes. Là. En tout cas, à date, j'ai pas vu de carte de crédit apparaître.
Qu'est-ce qui était quand même drôle d'Equifax, là, c'est que là, ils te demandaient des questions de sécurité. Là. Si tu mettais des vraies questions de sécurité, ben, vu qu'il y avait les données de Desjardins, ben, ils savaient c'était quoi les réponses. Fait que tu sais, quand tu fallait que tu fasses tes 3 questions de sécurité, tu sais, ton premier animal de compagnie, ben, si t'écrivais le vrai nom, mais probablement qu'il l'avait dans les.
Ouais, puis si t'écrivais le faux nom, il disait non, non, tu sais, c'est quoi.
Non, tu sais, c'est quoi. Fait que là, comment, qu'est-ce qu'il suggérait, là, c'est de choisir une question, puis d'écrire n'importe quoi qui n'a pas rapport.
OK.
Fait que c'était la meilleure façon de se protéger, même avec Equifax.
Ah, ben
c'est
oui,
ce que j'ai fait. Là, je les prends en note parce que maintenant. Mm-hmm.
Tu devrais faire ça. C'est quoi ton premier animal de compagnie? Benoît.
On l'a adopté en 2019.
J'étais un objet.
C'est bon, ça.
Si Chris, on descend des rabbits. Fait que, ouais, t'arrives à Montréal. En...
Ben, c'est ça.
Là, t'as récupéré mon
Je récupère les données de mon téléphone. Ah, si, il n'y a pas accès à mes notes. J'avais pas de notes, j'ai payé 150$ dans le vide. Tabarnak.
C'est-tu vrai?
J'ai aucune idée quand j'ai retrouvé le téléphone, mais à un moment donné, j'étais vraiment heureux. Je l'ai retrouvé, je l'ai appelé, puis tout de suite, tu disais, ah, viens-t'en genre demain. J'étais comme, Chris, merveilleux.
C'est quoi le show?
Premier show que j'ai fait, je me rappelle pas c'était quoi. Ça se peut-tu que c'était la chicane?
Ben, ça se peut.
Mais là, je te dis,
c'était pas là.
C'était-tu la chicane, Chris? Non, ben, c'est sûr.
Ben, en même temps, t'es issu pas mal, Matt, fait que ça, tu pourrais le savoir s'il était
c'est
là.
Vrai. Ouais, c'est vrai.
C'est quand même drôle que le gars de la BTB, son premier show à Montréal.
Quand même, ouais, j'avoue, hein. Quand même, c'était bel adon.
Ben, je suis pas sûr que c'était la chicane, mais en tout cas, c'était quand même
c'était
un bon show.
C'était soit ça ou Danny Bédard.
Là, c'était mon premier show, fait que j'étais juste assistant en son, là, puis je commençais à tâter le terrain, checker c'était quoi le kit, puis comment ça fonctionnait, on m'a fait faire le tour. Fun fact, quand que j'ai fait la chicane à Saint-Eustache, justement, j'ai réussi à sortir un arbitre de Danny Bédard parce que. Moi, tu sais, je commencé à faire de la tech, j'avais genre 18-19 ans, man. Moi, là, la chicane, là, je m'en calisse royalement. Puis, je sais pas c'est qui Danny Bédard. Fait que là, j'arrive
lui, il
là,
en esti qui est, en tout cas.
J'arrive là, je me présente à tout le monde. Hey, moi, c'est Thomas, ta-ta-ta-ta-ta, toi, c'est qui? Puis là, j'arrive à Danny, puis là, je dis, salut, moi, c'est Thomas, toi, c'est. Puis, man, t'aurais dû voir sa face, là. Il était tellement insulté que je savais pas c'est qui, là. J'étais comme, oh, OK. Puis, ça arrive quand même souvent, honnêtement. Je fait vraiment des.
Voyons, Thomas, artistes. C'est le gars qui a chaud sur le plateau. Là. Tu le reconnais pas? Il suinte un peu.
Ça m'a fait la même affaire que Bruno Pelletier. J'étais comme bonjour, moi c'est Thomas, toi c'est. Puis juste, il m'a même pas répondu. Il m'a juste regardé avec un abat. J'ai fait, tu dois être Bruno Pelletier.
Tu dois être Bruno Pelletier.
Je me rappelle pas, je sais que je l'ai passé. Je sais pas.
Mais qu'est-ce que c'est ridicule ça? Même si t'es le gars le plus connu au monde, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui te connaît pas quelque part.
Je sais que j'ai l'air plus vieux que je le suis, mais Chris, man, j'avais 8 ans.
Bruno Pelletier aussi a l'air plus vieux de ce qu'il
est. C'est ça qui est cool. Tu sais, quand on accueille les artistes à la fée, c'est du nouveau plus underground, mais il y en a des fois plus établis, mais ils se présentent tous par leur nom en startant. Ils attendent pas qu'on fasse comme.
Ben oui, il faut pas que tu assumes que le monde te connaisse, ben, même si t'es connu. T'sais.
Pas parce que tu travailles en son dans une salle de spectacle que tu connais tous les artistes de la colonie québécoise, tu parles leur face.
Mais même avec le podcast, avec Bon en salle, quand on fait Bon en salle, c'est des artistes qui sont établis, on sait c'est qui, on sait, mais ils se présentent pareil.
Oui, ben c'est oui. Ça. T'sais.
C'est comme si je vais au dépanneur, là, mettons, puis là, je dis, je vais prendre la gomme, puis là. La fille, elle me donne de la gomme, puis là, je dis, mais la fille ou le gars, peu importe. Puis, puis que là, je fais, tu me reconnais pas? Puis là, la personne dit, non, mais là, je fais de l'impro à Amos. Tu sais, c'est un peu la même affaire.
Là, c'est où ça, Amos? T'es dans un dépanneur à Québec?
Ouais, c'est ça.
Quand tu vas au DEP et tu veux de la gomme, faut pas que tu le demandes à la fille, tu peux le prendre et aller à la caisse avec.
Non. Moi, je veux me faire servir. Je veux avoir du service.
Non, mais à Québec, c'est un petit peu plus ghetto. Là. La gomme est en arrière du comptoir, pas comme
ouais, c'est ça. Ouais.
Avec des camnas.
Ah, ouais,
c'est un gros comptoir, tu ouvres la porte, le gars, il est là.
À Boston, dans les pharmacies, il y a des affaires que je pensais pas qu'il était. Genre des fenêtres barrées,
ouais.
Là. Genre les affaires de lessive.
Ouais.
Les affaires de coupe menstruelle, les affaires de maquillage, les affaires qui ont l'air de se faire voler à côté, là, c'est de.
Mais tous les produits d'hygiène féminin, il y a beaucoup de vols.
Ouais. Mm-hmm.
Parce qu'ils n'ont pas le choix d'en utiliser puisque c'est pas gratis.
C'est ça.
Puis pour les trucs de lessive, là, ça a été à cause. Je sais pas si ça date de quand, toi, là, mais.
C'est cet été, quand
cet été. Bon, mais quand il y a eu le mouvement là, de manger des Tide Pods, là, c'est là qu'ils ont commencé à les barrer.
Oh, man, je pensais que c'est le monde qui le volait, mais c'est encore plus drôle.
Ah, ouais, c'est excellent.
Bon, ben, moins, ils volaient pour les manger.
Ouais, c'est ça, moi. Ils les achetaient pas, toujours bien.
En même temps, c'est un peu red flag. Tu vois, un jeune de 12 ans arrivé à la caisse avec genre 7 paquets de Tide Pods.
Tu pas fait ton lavage.
Tu sais comment ça marche, un lave-vaisselle?
Non, mais tu sais, peut-être que sa mère l'a envoyé faire des commissions au centre-ville de Boston. On sait jamais.
En même temps, moi, j'appelle ça, tu sais, c'est la sélection naturelle. Mange-en du savon, merde. Si c'est ça que tu veux, mange-en.
Ben, à un moment donné, il faut pas se battre non plus contre...
Ça pourrait être ça, l'avertissement, ne pas mettre dans sa bouche, sinon, c'est ton problème.
Ouais, c'est ça. Mais à toutes les fois, là, pff, en tout cas...
Ouais, mais c'est pour la même raison pourquoi c'est écrit « hot » sur les cafés. Là,
ouais.
Ouais.
Il était écœuré de se faire poursuivre.
Ben oui, mais c'est...
39 000 piastres ou 39 millions que la fille a gagné. C'est 42 000 qu'elle a gagné. La fille contre McDo dans les années 90.
Ouais, ouais, contre du café trop chaud.
Là.
Ouais.
Là, ça continue à déraper. Là, de ce temps-là, sur Instagram, je suis un dude qui, à chaque jour, mange une poitrine de poulet cru jusqu'à temps qu'il aille la salmonelle. C'est son expérience. Puis il avale des œufs crus. Puis il mange un lit de poulet. Puis là, je fais « Ah! » Là, aujourd'hui, c'est le 15e jour. Puis ça va bien. C'était correct.
Tabarnak.
C'est ça.
Mais ça me fait penser, j'avais pas gagné à manier une vidéo d'un gars. C'était genre, je vais manger, je me rappelle plus c'était qui l'artiste, mais je vais trouver un exemple. Genre, je vais manger une photo de Michael Cera tous les jours jusqu'à ce qu'il me follow back sur Instagram.
Oui. Tu hey,
vas pas manger? Michael Cera, par
non, exemple, non, je sais, j'ai vu ça. Mais
il la mange.
Ouais, il a imprimé une photo, mais il y a la bouffe.
C'est pas Ryan Reynolds?
Peut-être Ryan Reynolds.
OK,
Ryan Gosling?
Acteur non, pas quelconque mais avec un... des
un acteur américain. Films, ouais.
C'est sûr, très drôle, ça, par exemple. Mais c'est quand même drôle.
Ben, c'est moi, du papier, je dis. C'est tellement drôle, c'est absurde. Moi, le mot absurde, ça me
parle. Il n'y a pas de danger, mettons, relié à ça.
Non, c'est ça.
C'est pas comme manger du...
Non, en même temps, je sais pas. Moi, j'aime la science. Puis là, je suis comme, ben, au nom de la science.
On va le suivre.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mangé du papier et qui a fait, ouf, ben trop mangé.
Ben trop mangé, je suis bien plein.
C'est peut-être que là, c'est dangereux, tu sais.
Ben, oui, c'est ça. Ouais.
Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais déjà fait une compétition avec un de mes potes, puis on avait mangé chacun une feuille de papier. Celui qui a mangé le plus vite, c'était stupide, mais on l'a fait. J'ai survécu.
C'est du coupé ou non?
Non, pas en tout. C'était dégueulasse. Ça se mange très mal.
Oh. Oui, ouais. Faut que tu le fasses ramollir avec la salive un peu.
C'était
imagine.
Probablement pas bon pour la santé parce que c'était pas genre une feuille de papier vierge blanche. Là. C'était une feuille de cartable pleine d'encre.
Ouais. Oh, nice!
J'ai déjà fumé une feuille de journal. Moi, mené, ça brosse avec un gars dans un garage. Puis, ça goûtait bizarre en tabarnak.
J'étais déjà gelé avant?
Non, j'étais pas gelé, j'étais juste sous.
Okay.
Ben ça, c'est l'équivalent de tes poumons de 4 jours à Rouen.
I guess, ouais.
4 jours de FME.
Ben d'après moi, si on check site, je dois avoir des nouvelles de 2004 imprimées dans le poumon quelque part.
L'arsenic peut tuer. Ouais. Fait depuis 2004 qu'on en parle. Le pire, c'est qu'on parle de l'arsenic à Rouen, puis si je me souviens, dans le temps que je suis journaliste, il y avait beaucoup de reportages sur la fonderie qui étaient verte parce que c'est du recyclage. Qui utilisait ça
du
comme
recyclage informatique.
Pour se donner une image verte.
C'est du greenwashing, ça.
Ben, c'est mais ça.
C'est du greenwashing à Chris.
Hein? Ouais. Puis, on récupère les déchets partout, puis ça passait positivement. Puis je pense que c'est ça qu'à un moment donné, ils ont fait comme, hey, wow, wow, wow. Là, oui, OK, là, mais il y a un reverse à la médaille à un moment donné. Là, mais, le karma te rattrape. Là,
en même temps aussi, c'est que tu allais porter un don, tu avais une gourde. Tu allais porter une vidéo, maintenant, tu le mettais dans le container, puis il te donnait une gourde, il te donnait quelque chose. Mais il ne payait pas le monde, puis les autres faisaient de l'argent avec ça.
Ben oui.
C'est crissement beaucoup d'argent.
Ouais, c'est ça, parce que c'est comme un AIM, mettons, qui récupère le métal, dans le fond, là, c'est le même principe. Là.
Ouais, mais là, c'est de l'or, de l'argent.
Le citoyen peut amener ses affaires.
Ouais, puis la fonderie, c'était le... Ben, je pense que c'est encore ça, le seul recycleur électronique en Amérique du Nord.
Ouais, c'est ça.
Je pense que oui.
Parce que sinon, toutes les autres l'envoient ça en Hin.
Ouais, c'est les containers.
C'est
ouais.
La seule raffinerie de cuivre au Canada, me semble.
Ouais, aussi. Ouais.
Jusqu'à la preuve du
contraire. J'ai l'air intelligent, c'est juste que j'écoute Radio-Can.
Non, mais c'est ça. Ça rend intelligent.
Vas-tu pas à Pénélope?
À Pénélope, elle a vraiment l'air d'aller bien. À tous les jours. Elle m'impressionne, je suis comme. Ouais. Tabarnak, elle fait des entrevues tous les jours.
Ouais, quand même.
Tous les fucking jours sur des sujets hyper précis que. Des sujets hyper précis, je suis comme, elle en maîtrise donc bien des affaires. Je sais, il y a une équipe de recherchistes, puis il y a de la préparation, puis tout. Puis je suis comme, elle a toujours l'air d'avoir, elle a toujours quelque chose de pertinent à dire.
Ouais.
Je suis comme, damn.
Ouais, puis
good job, Penelope.
Elle me surprend avec des questions assez assassines avec des invités, elle se met pas de gants blancs.
Mm-hmm.
Ça, je me cherchais un exemple, je me souviens plus, mais. Tu sais, le Stéphane Bureau, qui avait une émission là, de ouais, débat.
Le monde à l'envers. Ouais.
Le monde à l'envers. Puis elle était rentrée dedans, quand même, pas pire, selon des. Parce qu'il y mm-hmm. avait comme eu un scandale, je ne me souviens plus exactement c'est quoi. Mais ça m'avait surpris.
Julien Lacroix, qui était parti au monde à l'envers.
Non, 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 non. Mais tu sais.
C'est arrivé pour vrai. Ouais.
Mais c'était peut-être ça. Ouais, mais ouais. Tu sais, mais c'est ça. Puis elle l'a talonné, même s'il avait pas l'air de trop vouloir en parler. Elle l'a. Elle dit, non, mais tu sais, ça.
Ouais, ouais.
Ça n'a pas l'air de ça, Penelope, avec sa petite coupe bol, là, mais elle est chienne.
Ouais, mais en même temps aussi, ben, en tout cas, je trouve que son émission est le fun parce que souvent, les sujets de conversation, c'est des sujets comme plutôt actuels. Puis, tu sais, là, il parlait de. Cette semaine, j'écoutais un truc, puis il parlait de la francisation des immigrants.
Ah ouais, je l'ai écouté aussi, c'était super bon.
Ouais,
ça.
C'était bon. Puis il montrait.
Même touchant.
Ouais, quand même. Et bien, il y avait le prof, un professeur qui fait ça, là, le cours accéléré de
francisation. De
parce que dans le fond, t'as comme 6 mois. Là. Si t'es un immigrant puis tu parles pas français, t'as 6 mois pour apprendre le français si tu veux être en société. Puis là, il faut que t'aies un niveau acceptable où t'es capable de. D'acheter, de tu sais, ben, pas acheter, mais de vivre en société, mettons, mm-hmm. d'avoir les services nécessaires.
Ouais, puis c'est aussi que, ben, à partir de 6 mois, je pense que tu peux juste avoir tes communications ouais. officielles du gouvernement en français.
En français.
Fait que c'est quand même un gros enjeu. Que je suis un francophone, j'ai de la misère à lire ça, je comprends fuck.
Ouais,
all, c'est ça. Je suis pas stupide.
Et mais, la moitié du Québec est illettré.
Langue seconde.
Mais ouf. Là, tu sais, même le cours est pas facile parce que, tu sais, quand tu dis à des enfants, apprenez une autre langue, ça va. Mais là, quelqu'un qui a vécu des traumatismes, qui s'en vient au Canada pour juste s'éloigner de ça. Puis là, tu demandes en plus, apprends une langue que tu connais pas, qui est complètement dans un autre jargon. Tu sais, mettons exemple ukrainien, là, ouais, c'est pas nécessairement, c'est pas relié à la langue latine.
Mm-hmm.
Fait que déjà, c'est vraiment difficile. 6 mois, c'est pas beaucoup. Là.
C'est ça,
nous a pris plusieurs années pour apprendre l'anglais.
C'est quand même important. Si on veut qu'il s'intègre, c'est quand même important pas d'obliger
mais après,
ça, mais
faut,
les accompagner, mais il faut investir. Puis c'est là
faut être réaliste aussi.
Souvent, il manque d'accompagnement, puis de profs, puis de ci, de ça, mais. T'sais, c'est sûr qu'un immigrant qui va avoir appris le français rapidement va bien mieux s'intégrer. Mm-hmm. C'est pour ça aussi qu'il favorise aussi l'immigration francophone. Là. Des fois, on a l'air un peu raciste de dire on va cibler les francophones, mais dans un milieu que, oui, quand tu es sur l'île de Montréal, tu vas t'en sortir en anglais, mais à l'extérieur,
c'est
tu
fini.
Fais rien. Là. Ouais. Ouais, même à Laval, à Star, c'est le cas tel, mais à Longueuil, tu parles juste anglais.
Je pense que dans tout autour de Montréal, t'es quand
même. Grand Montréal, ça va.
Si t'en vas dans les régions, tu t'en vas en Drummondville. Je suis dans les petits. Beaucoup de monde parle pas anglais.
Va-t'en à Saint-Anne-des-Bries.
Encore moins parler anglais quand c'est ta langue seconde. Avec quelqu'un dont c'est la langue seconde, c'est encore moins évident.
Comment t'as dit?
Tu sais, parler en anglais avec toi, c'est ta langue seconde.
Ouais.
Même si t'es capable de parler en anglais, ça veut pas dire que tu vas avoir de la facilité à interagir avec quelqu'un qui parle anglais, mais c'est aussi sa langue seconde.
À l'inverse. Plus
ouais.
facile.
Moi, c'est plus c'est facile.
Ouais, parce que vous avez les mêmes erreurs puis le même niveau, fait que vous cherchez à comprendre plus facilement que l'autre côté. Ouais,
c'est un fait.
J'ai découvert, moi, sur le pouce, quand j'essaie de parler en anglais avec des gens qui parlent anglais,
mm-hmm.
il y avait moins tendance à essayer de comprendre ce que j'essaie de dire puis essayer plus de me corriger, mettons.
Okay.
Fait qu'ils perdaient le point de ce que je disais. Puis quand je parlais avec des gens qui ont peut-être les deux langues secondes, si on avait l'impression d'être deux Shakespeare. Là.
J'ai vécu okay. ça aussi dans le nord du Québec avec les Inuits là, qui parlent Inuit. Puis mm-hmm. ils parlent anglais, c'est leur langue seconde, c'est la même chose.
C'est plus intimidant de parler avec quelqu'un qui parle sa langue quand ouais, tu parles pas sa langue.
Puis en même temps, la personne qui n'est pas habituée parle moins vite. On va essayer de mieux prononcer, même si des fois, c'est pas la meilleure chose, là, mais, mm-hmm. mais tu sais, il y a un effort de plus, mettons, sur la compréhension.
C'est vrai, je retire mes paroles, c'est complètement vrai, puis...
mais t'es mieux, Chris!
C'est bon, les gars, je vous donne raison.
Dossier réglé!
Je l'ai vraiment vécu, fait que, tu sais, je sais quoi.
Le pire, c'est que t'en parles, puis effectivement, je trouve, j'ai dit complètement quelque chose de stupide, parce que j'ai passé un mois à Charlottetown, puis j'avais beaucoup plus de facilité à parler à des gens dont c'était la langue seconde, qui étaient premièrement francophones, qu'aux locaux, qui est particulièrement à Charlottetown, les locals, ils ont un accent petit peu plus complexe, mettons. Mm-hmm. On est proche du New Brunswick.
Oui, c'est ça.
New Brunswick.
Ouais, Charlottetown, c'est Nouvelle-Écosse.
Ça va bien? Charlottetown, c'est sur l'île du Prince-Édouard.
L'île du Prince-Édouard.
C'est très cool comme ville. C'était vraiment cool.
Dans quel contexte t'es allé là?
J'ai fait le programme Explore en sortant du secondaire.
Oh là là, c'est un genre de Katimavik, c'est ça?
Je ne sais pas c'est quoi Katimavik, mais je vais dire oui.
Tu te fais envoyer dans une ville, puis tu as de la job à faire.
Tu changes de ville après 6 mois.
Tu as un programme subventionné, tu vas là, puis moi, je résidais sur l'université. Puis tu apprends l'anglais, tu as des cours, tu as des activités, tu peux te promener dans la ville. Puis je passe un mois là à perfectionner mon anglais.
Ah oui, tu n'es pas emprisonné, mettons?
J'ai passé pas emprisonné, là, pas tout à fait.
Non, c'est parce que tu peux te promener dans la ville, tu restes dans la maison. Il est un esclave d'une famille riche. Charlottetown. J'explore. Dit...
J'explore mon dorm. Mais pour vrai, ça a été un mois incroyable. Je me suis fait des potes avec qui j'ai encore des... Ben, avec qui j'ai longtemps eu des contacts, un peu moins maintenant parce que j'étais un peu sauvage, mais c'est encore des amis. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on s'est parlé en anglais pendant un mois. Quand on s'est mis à se parler en français la dernière journée, là, tabarnak, c'était weird. C'était plus la même personne.
Quand tu vis, mettons, plusieurs semaines dans une autre langue, puis là que tu as le réflexe, puis tu commences à parler ou réfléchir dans cette langue-là, là, c'est vraiment... Et de revenir après ça, c'est vraiment... Mm-hmm.
Mais quand tu apprends une langue, c'est plus dur d'être nuancé dans tes... Dit que quand tu es capable de parler dans ta langue, là, tu es capable de dire des commentaires racistes que tu essaies de dire depuis 3 semaines.
Inquiète-toi pas, je suis capable de dire des commentaires racistes en anglais aussi.
Ah ouais?
Attends un peu, je vais vous en... Non.
Ah, mais là, j'entends...
culturel, le podcast,
j'entends tout le monde à la maison ou dans leurs autos, à la toilette, peu importe, qui écoute le podcast se demander, mais c'était quoi ton anecdote de tantôt?
De Zénith?
Non,
c'était okay. Par rapport à Créatine.
C'est Créatine, parce que Créatine, c'était ton band secondaire avec Jay Blais.
Oui, exactement. Étienne Lavoie, Marc-Antoine Veillette, Émile Leblanc. C'était un band secondaire. Puis,
pourquoi Créatine, juste en premier, mettons?
Ben, en fait,
c'était des athlètes.
Mais c'est ça, ils mangeaient juste
ben,
de la whey.
Vous voyez bien que j'étais un athlète. Là. Je passais mon temps au gym, puis à un moment donné, j'étais là, je checkais ma bouteille de whey, puis j'étais là, God damn, c'est un beau nom. Non, puis sérieusement, avant...
Ben, sa sauce.
Au départ, le band, cette band-là, commençait à secondaire 1 quand on avait 12 ans.
Ouais.
On s'est cherché un nom, on a pris 2 mots en anglais dans le dictionnaire, ça a fait Above Time. Ça a commencé là.
C'est ça, oui, c'est ça.
On s'est appelé Above Time un bout, puis maintenant, on a décidé de shifter. Ouais, quand tu nous coaches à l'impro. Puis là, maintenant, on s'est dit, on a fait un shift. Là, on veut faire de la compo. Là, notre but, c'est de faire de la compo en français. Above Time, ça le fait pas. On trouve un nouveau nom.
Ça te sentait pas au-dessus du temps?
Ouais, mais c'était un peu mélodramatique. Ici, à Above Time, là, ça fait emo en tabarnak. Là.
Ouais.
Pour jouer du Bon Jovi, en tout cas, c'était un peu trop emo à mon
avis. Yellow Card, à la limite, ça l'aurait fait.
Hein?
Yellow Card, ça l'aurait fait, à la limite.
On jouait pas assez de Blink dans le temps non plus.
Non.
C'est ça. Ceci dit, fait qu'on cherchait un nouveau nom, puis Créatine, c'est venu de même. Puis on s'est dit, on va mal l'écrire. Comme ça, toutes les places qu'on va jouer vont faire une faute, eux autres aussi. Fait à chaque fois qu'on a joué à quelque part, la fée inclus, notre nom n'était jamais bien écrit sur le flyer.
C'était K-H-R-E-A.
C'était K-R-E-A-T-H-Y-N-E.
T'es pas correct, c'est pour cela fait?
Il me semble qu'il manquait un H ou il y avait un I à ma respect, je m'en rappelle pas. Ben, j'ai le poster chez mes parents. Il est pas correct. Mais c'est pas grave. Fait qu'on a joué à la fée une première année, en 2017, 2016.
C'était-tu l'été ou c'était en mois de mai?
Non, c'était l'été. C'était l'été. On avait joué première partie des Chiens de Ruelle.
Ah oui.
Les Hôtesses d'Hilaire. Il me semble qu'il y avait un autre band.
C'était Bob qui jouait à
Offrid. Ouais, c'est ça.
OK, ouais. C'était une crise de veillée. C'était un
Bob Fusil, Bob
Carabine.
Merci
de les Chiens Fous. Plaisir.
Ouais, c'était quelque chose, ça, cette soirée-là. Ouais.
Mm-hmm. Monsieur, t'es belle petite short multicolore sur le stage.
Lui, ça?
Ouais.
Oui, c'est vrai, il y avait des grandes shorts, plein de couleurs aussi.
Ah ouais, je m'habille vraiment mal, j'aime
funky.
Ça.
Funky.
C'est correct, c'est juste funky. Ça m'a marqué, je sais pas pourquoi.
Ça m'a marqué en Estie 2015.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est pas pour être cocky, c'est que en même temps, c'est peut-être ma perception, là. C'est que nous autres, on a joué pour un parti, puis il me semble qu'il y avait une hostie de belle vibe.
Ouais.
Puis Chris, après ça, je suis allé dans le crowd écouter les autres bands, puis Chris, je trouvais ça plate.
Ouais, ben,
je trouvais que la vibe était moins cool. Je suis là, Chris, on a-tu gagné?
On a-tu gagné?
On a-tu
ouais, puis il y a... Puis le monde sont partis avant les hôtesses, parce que là, il y avait comme un... les deux shows étaient rendus trop proches.
Ouais.
Okay. Fait que pendant les hôtesses de là, il devait rester 10 personnes, 15 personnes. Ouais, puis là, tout le monde t'offrit.
Tout le monde vient... Ouais. Le public était là pour les chiens de ruelle. Fait que les hôtesses de l'air, c'était un mauvais booking, je pense.
Ben, en fait, il aurait fallu booster le show du Fred.
Ouais, limite,
c'est sûr. Mais, parce que, Chris, les hôtesses de l'air, c'est fort.
Mais c'est parce que l'affaire, c'est que là, Robert Fusil, il était fendu au 45. Le DT, c'est François Lachapelle, je pense, qui s'en occupait cette année-là. Puis, il était en tabarnak après. Il ne contrôlait pas. Il faut que tu t'en ailles faire ton test de son. Il a fallu qu'il le gère, là, tu sais. Puis, c'était que ça avait été compliqué.
J'aimerais bien voir Frank faire ça.
Je pense pas que Robert Fusil existe encore. Mais bon.
Non, il s'est suicidé.
Le projet. Non.
Par pendaison. Tu peux nous l'apprendre de même, Matt.
Le projet musical n'existe plus, mais c'est ça, ça avait été. C'est un genre de band qui commençait aussi, là. Puis les autres, ils étaient partis sur une solide dérape. En plus, les chiens de ruelle aussi.
Ah, les chiens de ruelle qui ont dormi genre dans le parc, là.
Dans le soute.
C'était bon, ça.
Ils ont dormi dans le soute.
Dans le soute.
Le gars des chiens de ruelle, à la fin, le lendemain, il vient me voir. Il dit, hey, c'est des beaux t-shirts, ça. Peux-tu en prendre un? Je dis, oui, vas-y, pars avec ça. Ah, c'est cool, j'aime ça. C'est comme ça. Il a changé de t-shirt ce jour-là.
J'avais rencontré le chanteur une semaine avant à Tadoussac, moi.
Oui, au Chichac, sûrement.
Au Chichac, il avait joué. Il était venu voir le show de Lubic puis de Vincent Peak, là.
Groovy,
ouais.
Okay, je pensais qu'il allait avoir une.
Non, c'est juste ça, c'est juste.
Attendez.
C'est juste ça. J'ai rencontré un gars nu-pied, puis il dit, hey, j'ai joué un band, là, ça s'appelle Les Chiens de Ruelle. Je dis, hey, c'est drôle.
Vous aviez pas perdu vos clitchers, ce fois-là?
Ouais.
C'est ça.
Moi,
c'est
ça, il y a une autre histoire.
Ça me
tentait pas de la compter, celle-là.
Non, okay, c'est ça.
Ben, je peux la compter, mais ça me tente pas, c'est pour mon podcast.
Ben, attends un peu, on a commencé à enregistrer.
C'est ton podcast.
Techniquement, ça fait deux épisodes que tu fais dans ce podcast-là.
Oui, c'est pas moi l'invité.
Ah, ok, c'est pas toi l'invité.
C'est quand que c'est toi l'invité?
Jamais, ça va être plate. C'est que ça va être plate.
T'as le droit de raconter l'anecdote si tu veux, Pierre-Marc.
Non, ça me tente pas.
Il est trop tard, là, tu m'as parlé.
Mais là, on peut revenir à l'anecdote de.
Ouais, l'anecdote de Tom.
Est-ce que je fais des longues introductions
par rapport à. Non, mais c'est parfait. Ouais, c'est parfait.
Puis nous autres, on est bon pour bumper.
C'est un build-up.
Ah, mais moi, j'ai le monde à la maison qui disait là, je veux le savoir, qu'est-ce qui se passe.
Ouais, le monde à la maison, il écoute ça pour moi, tout le monde le connaît.
Mais avant qu'ils poursuivent, on va présenter notre nouveau commanditaire.
High speed.
La crème à couilles.
J'aimerais ça que vous m'avertissiez. Je l'aurais faite.
Ouais, fait que, ouais, excuse, continue.
Bon, première fille avec Créatine, ben, dernière fille avec Créatine. C'est un show qui était important pour nous autres. C'était notre dernier show à vie sur papier. Parce que le secondaire finissait, on partait tout au cégep, bon, mais c'est fini.
On
les
sépare.
Boys, on avait enregistré un petit épée pendant l'été, on avait gravé ça sur des CD chez nous, on avait fait 25 copies qu'on avait mis sur le comptoir, puis on avait dit à, probablement à Pierre-Mac, donne ça, contribution volontaire. Finalement, je sais pas combien on a donné, mais je n'ai jamais récupéré un. Probablement à la même place que mon tapis que tu m'as redonné 7 ans plus tard, là. Anyway.
Tu voles des tapis, Pierre-Marc?
On avait oublié notre tapis de drum. Pierre-Marc l'a eu chez eux pendant des années, puis à un moment donné, il a fini par le retrouver.
Marc-Antoine, d'ailleurs, il y a encore un band drum dans le bureau de la fée à l'hôtel de ville.
OK.
Il est dans le bureau, mais je n'ai jamais revu Marc-Antoine. Là, mais
ah, c'était Marc-Antoine?
Il est dans le bureau. Là.
Nous autres, on avait encore les CD de Faudrait faire la vaisselle il n'y a pas très longtemps.
Il l'avait prêté pour un autre band, je pense. Là. C'était pas lui. Là.
Ouais, ça me dit de quoi, ça? Ouais.
Mais il était de passage, puis il y a un band qui cherchait un band drum qui avait amené le sien.
Je le ramasserai un autre tantôt, j'en ai besoin d'un chez nous. Bon, je vais savoir le trouver.
On va savoir le trouver, certain.
Fait quoi? Ouais, c'est ça. Finalement, on part aux études. Il y a une année qui passe. Là, après ça... Mathieu, tu nous contactes, tu dis hey, on fait une Saint-Jean cette année avec Émile Bilodeau, on aimerait ça que vous jouiez en première partie. Fait que là, on dit ben, OK, on va faire une pratique. On fait une pratique, ça se passe pas pire. Puis une semaine avant, on avait un show dans ma magnifique municipalité de Saint-Maurice-de-Dalquier.
Mm-hmm.
Fait que c'était comme notre vrai général. Puis pendant le show, il y a un. Je me rappelle pas de son nom, je vais l'appeler André tout le long de l'anecdote.
Salut André.
Il y a un certain André qui arrive, puis lui, André, il a fait bien des affaires, puis il est bien important. C'est genre un vrai bleuet, là. Mais c'était pas un bleuet.
OK.
Là, moi, je pouvais pas mixer pendant le show. J'avais demandé à ma mère de dire, je lui ai dit, ben, si lui est pas assez fort, on monte ça. Puis finalement, lui, il a dit, ben, moi, je suis capable, je vais le faire. Finalement, c'était de l'ostinement. Mais le gars, il avait des grandes ambitions. Il dit, hey, je vais être votre gérant, puis je vais.
Je pense que c'est Patrick Serge Robert, là,
c'est ça, Patrick. Là, on se dit, ben, Chris.
C'est mon mentor. C'est mon lui mentor. Qui t'a tout appris.
Je dis, ben, on n'a rien à perdre, man. On a une gig la semaine prochaine. Tu viendras, puis tu nous écouteras.
Il avait-tu sa tuque sur sa tête?
Je sais pas.
Ok, c'est là, il y a
un arrive. Personnage.
Allez, j'espère qu'il écoutera pas ce podcast-là.
Non, en même temps.
Moi, je m'en calisse. Anyway, les dernières choses que j'ai entendues sur lui, t'es pas très élogieuse. Fait que Patrick, watch-toi, mon gars. Anyway, là, on arrive.
Ça prend une
chier. On fait un soundcheck. Puis Patrick, il est comme over. Over. Je me rappelle, à un moment donné, il donnait de la merde à quelqu'un pour qu'on ait des bouteilles d'eau. Je me disais, dude, shut the fuck up.
Là, est-ce que j'aime tout de ça?
Là, tous les
à
gars.
À Saint-Maurice, ça encore?
Non, ça, c'était rendu à Saint-Jean.
À Saint-Jean.
Sur le bord avec Émile.
Écris, je me souviens pas de ça.
Là, je suis là, man. Là, on s'en regarde tout sur le stage. On est en train de faire le soundcheck. On est là, man, les gars, là, on est en train de l'échapper. Tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Là, tout le monde me regarde. Je suis comme, ah, fuck, est-ce que ça tombe sur mes épaules? Puis il y a une couple d'affaires, puis même des gros red flags, on fait comme. Et nous, et Chris, on fait un show par année, on n'a pas besoin de lui. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est
des colis?
En même temps, on est des jeunes de 18 ans, c'est impressionnable. Ben ouais, hey, c'est Patrick, tabarnak. Là, maintenant, on le voit quand on continue avec son asti d'affaires de bouteilles d'eau. Là, on est là, bah, man.
C'est bon.
Ça finit direct là. Je descends du stage, je m'en vais, je dis, hey, Patrick, man, ça marche pas. Bonne fin de journée. Probablement pas dit de même, mais j'étais quand. Man. Fuck it.
Des calices.
Des calices. Puis finalement, on a passé un asti de belle veillée, man. Chris,
il
de la
resté,
journée.
Lui, il a même pas fini son check, dans le fond.
Ah ouais, il était venu avec nous autres, il est venu au soundcheck, puis finalement, peut-être juste après le soundcheck ou pendant, on l'a crissé dehors.
Ça devait être genre quoi? Ça devait être Frank qui était à la console, I guess?
Non, je pense que c'est les gars de projection qui faisaient. Ah, ok, j'ai cru. Il y avait pas de DT, tu sais, c'était juste un show, là. Fait que...
Ouais, je me rappelle pas c'était qui. Dans ce temps-là, j'avais pas assez de connaissances dans le domaine régional.
Mais c'est sûrement Projection. Ouais.
Les deux Saint-Jean, c'était Projection, je suis pas mal sûr.
Ça, ça devait être le bord de la rivière?
Ouais, c'est l'année après la grosse Saint-Jean que Ben avait l'idée. On avait fait une. Là, c'était plus le Saint-Jean régional, mais on avait mis le dos, puis c'était dans un chapiteau gros comme une niche.
C'était cool en crise, ça.
C'était cool, tu sais, il y avait une belle ambiance, mais. Mettons que c'est Emile, tu sais, puis Emile, il était quand même sur son high, là, à ce moment-là.
J'avais pas tant de monde.
Chapiteau était un peu petit. Il y avait eu un esti de déluge lors du souper, puis finalement, ça s'était résorbé. Mm-hmm. Mais,
c'est drôle, je me souviens pas de ce show-là. Moi, je pense pas que j'étais
réussi à tenir le party, cool. Là, mais c'est ça. C'était...
Ben, dans mon souvenir, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'était probablement juste quand on jouait, parce qu'on disait qu'on jouait dans le jeu.
Ben, c'était correct. Genre,
pense, mais c'était cool, on avait eu du fun pareil. Là.
Pendant Émile, je sais que le chapiteau était plein, ça débordait un petit peu. Ça a veillé sur l'after, mais c'était très pas de 4.
Toutes les Saint-Jean qu'on s'est occupés.
Ça n'avait pas réengagé les gars qui n'avaient pas eu joué l'année d'avant. Les 4 sourcils, les 8 sourcils.
Ça aussi, c'est des hosties. T'as-tu déjà compté ça?
Ben non, let's go. 4 sourcils, all
la
right.
Saint-Jean d'avant, gros beef. On a surbooké la prog. Là, ça,
avec Pépi.
La soirée était trop longue parce que là, c'était Pépé sa guitare, la tête d'affiche. Puis avant, il y avait eu Lubic. Puis juste avant, Caravane.
Ouais, je m'en rappelle, j'étais là. C'était une. Ben, c'est un chien à dire, ces Saint-Jean-là. Pour vrai, ça l'a shapé mon adolescence. Merci, les gars. J'ai découvert Caravane, j'ai découvert Gasoline, j'ai découvert Xavier Caffin. Tellement d'artistes cool, québécois que, en tout cas, c'était super cool.
C'est ça.
Trêve, let's go.
Ben, c'est ça. Puis là, au début, c'était Caravane Pépé. Puis Lubic n'était pas supposé jouer. Il avait déjà joué dans la fille avant, mais. Ils ont booké Lubic parce que tu vois, c'est pas assez Caravane Pépé. Je pense que Pépé, c'était pas mal à l'affiche. Ouais,
ça aurait été assez.
T'es rendu à 4 bandes avec la fin de soirée.
Fait que là, c'était Caravane qui a joué genre à 6 heures le soir. Lubic, Pépé. Mais Pépé il est extrêmement généreux. Puis il y a des tonnes, Fait que lui, il a tiré ça. Là.
On avait du fun.
Il est rendu 11 heures, 2e, 3e, 4e. Cinquième rappel. Puis là, il y a 8 sourcils en arrière. Puis là, les autres, ils font « Chris, qu'est-ce qu'on fait? »
Il est passé minuit, là.
Il est passé minuit. C'est ça. En fait, ils ont joué 45 minutes de 2h15. On a étiré, en fait. On a arrêté le show à 3h30 parce que on pouvait pas les arrêter. Ça faisait juste 45 minutes. Puis le monde était encore sur le party. Le monde était chaud. Ben, il se chicanait avec des festivaliers qui renversaient des bars.
Oui, qui renversaient des bars. Mais je me chicanais aussi avec François qui voulait arrêter ça.
Ah, oui, ok, oui, c'est vrai.
Parce
oui.
que. Tu sais, c'est stupide.
Le chef de la sécurité.
C'était moi qui étais en charge, je pense, cette année-là.
Oui, ouais, c'est ça. C'était le cordeau de la.
Puis, là, vu qu'on dépassait, Laro avait fait la vérification, puis tout était good, là. Puis on pouvait y aller une 30
c'est
minutes.
Saint-Jean,
puis on vendait plus d'alcool. Ça, c'était correct, mais on continuait le show une demi-heure. C'est pas si pire que ça.
Pour pas qu'on arrête tout en même temps, puis que ça la merde pogne, là.
Sauf que le gars qui s'occupait de la sécurité. Mm-hmm. François, Ben, il a menacé d'appeler la police pour tout arrêter ça. Je dis, François, là, on a pris le risque. C'est nous autres qui le fait. Si t'as, t'sais, tu peux t'en aller. Mm-hmm. On n'a plus besoin. Là. Ouais, va-t'en.
Au pire, va-t'en. C'est
si t'es pas d'accord, va-t'en. Puis on va le gérer.
Ouais, si y a quelqu'un encore, qui meurt, je vais m'en occuper.
Il y a encore au moins 400 personnes. Là, fucking ça brosse. On peut pas tout arrêter à fret demain.
Non. Tire sa plaque, tu fais tout le monde chez vous.
Ça marche pas. Les, et puis ouais. Les gens sont au 45.
Ah, j'ai
puis,
aucune misère à le
faire. C'était
violent.
Ce soir-là, il y avait eu une bagarre en avant du bar où il avait garoché quelqu'un dans le bar. Le bar, il avait crissé son camp à terre. Puis là, je faisais tabarnak, tu sais, il y avait de l'argent partout.
C'est lui, Eric, je pense, le responsable du bar, il avait perdu patience.
Ouais, ben là, ça, c'est correct. Puis en même temps, c'est le même soir aussi qu'il y avait un gars qui arrêtait pas de vouloir me matcher avec son ami gay.
Oui, on le salue.
Ben, je sais pas comment il s'appelle, mais...
Salut Antoine.
mais ça c'était fatiguant là. À la fin là, j'étais tellement tanné que j'ai fait sortir par la sécurité, j'étais tanné là.
C'est ça, c'est...
Il a pas compris là. J'ai dit non, j'ai une blonde, j'ai pas envie d'avoir un autre chum là.
C'est là que je... en même temps, c'est là que
attends, je me suis... pas d'avoir un petit side piece.
C'est là que je me suis rendu compte que tu sais faire des soirées dans même grand public, tu sais H2O ils gèrent ça trois soirs en ligne. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'ils font plus d'after là. C'est trop complexe
encore, des after?
C'est rendu des
bars, ils
font là,
plus d'after
après la headliner.
De ce que j'ai compris, c'est des raisons pécuniaires là.
Aussi,
ça sonne péjoratif, forcément, c'est juste parce que ça c'était pas rentable. Au final, les shows H2O, c'est juste un moyen, tu sais, ils font pas... Le but des shows à H2O, c'est juste faire de l'argent pour payer toutes les activités autour, tu sais.
Ouais, ouais.
Fait que...
Il n'y a plus de chapiteaux après.
Il n'y a plus de chapiteaux.
Non, c'est ça.
T'as fait quoi, deux ans?
Ouais, depuis, ben, moi, ça un petit peu fait trois ans avant que je fais H2O, ben, mettons, deux ans et un tiers. Puis il n'y a jamais eu de chapiteau.
Bon, tu vois, ben, ça dit que moi, la dernière année, j'ai fait de la carrière, il y en avait encore.
Une des dernières années qu'il y avait un chapiteau, c'était l'année que Tony s'est fait sortir par la sécurité parce
qu'il
crachait à
l'ubique. Non. Quand je faisais de la caméra, il y avait un chapiteau sur le côté avec un Ben.
Puis ça, c'était après?
C'était après. Okay.
Mais à la fin, le chapiteau, t'es pas rendu en haut?
Non, il était en bas.
Il y a eu une année que c'était ça, puis ils l'ont ramené en bas.
Ben, je me souviens qu'il a déjà été en haut.
En haut, c'était Lubic. Puis ça, c'est...
C'était l'année du centième qu'il avait mis en haut parce que le centième avait un petit setup, puis là, ça prenait toute la place.
Ah, le fameux show du centième, là.
Débile, hein? Les marionnettes géantes, il était belle. Hein?
C'était
beaucoup d'argent pour.
C'était chaud là. Le meilleur, par exemple, la trame sonore du Grand Jazz Bay était écœurante.
Ouais. Mais c'est pas Bruno qui a encore les marionnettes?
Non.
C'est qui a ça?
Ça doit être Valcôté, c'est lui qui les a fait.
Non, c'est ça, je sais. Il était où? Les costumes, il les gardait. Dans un entrepôt quelque part.
Je sais que
je les ai vus quelque part, mais un moment donné, on les avait. Ah oui, je les ai utilisés
okay.
Dans une rue de l'horreur à l'Halloween.
Ah ouais.
Ils les avaient trashés. C'était François, justement. Puis,
Valérie qui avait travaillé fort.
Je l'ai opéré avec Seb Lavoie. On avait chacun notre personnage, puis on allait voir les enfants avec les grosses mains.
Je fais
comme, what the fuck, les marionnettes du centième servent pour un truc d'horreur? Ça en dit long sur la qualité du spectacle.
Ouais, ben, tu sais, ça, c'est qualité. C'était pas très qualité. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça bon, là.
Non.
Je sentais qu'il y avait beaucoup de beaux efforts de
ben,
fait. Puis beaucoup de gens qu'on connaît tous.
Les
qui ont drapés fort
à la fin,
puis...
c'est impressionnant.
Je me rappelle même pas.
Mais, tu sais, je veux dire.
Les gens qui tombaient du stage, là, dans les rideaux. Là,
ah oui, grue, oui, ça, oui, ça, c'est vrai. Ça, je me rappelle, c'était impressionnant.
C'était un beau tableau, ouais, mais maintenant, ouais. C'est ça. C'est le reste, tu fais comme.
Ouais, après 5 minutes, je suis comme. Ben, pas tombé, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici?
Ah non, il aurait dû donner ça à
du monde
qui font de quoi ici.
6 fois, ce show-là, en plus.
Ouais,
c'est
ça,
deux fois par
soir.
Deux fois par soir.
Puis, il me semble, il n'y avait pas un truc avec Céline aussi dans ce show-là. Il y avait une vidéo de Céline, me semble, qui n'a pas marché à la première.
Ah oui, parce qu'elle disait bonjour aux gens d'Amos.
Ouais, bonjour aux gens d'Amos.
Parce que...
Je me sais pas de ça.
C'était comme le big shit. Puis, je me rappelle, on m'a raconté que la première, je te parlais à la première. La vidéo avait juste pas marché, fait qu'il y avait
c'est
juste
ça.
Eu un gros malaise ou qu'il y avait pas de vidéo, pas de son, rien.
Puis ils l'ont remis, je pense, le lendemain ou quelque chose.
Je l'ai vu trois fois, puis je me souviens pas de ça.
Ouais.
Non, mais il n'y a pas passé, c'est ça.
Non, c'est mais je l'ai vu trois fois.
Ouais.
T'es au 45, c'est ça.
Probablement.
C'est fou, non, hein, parce que ce temps-là, c'était vraiment tough organiser des affaires.
Le centième, ça avait drainé.
Il
n'y
avait plus d'argent nulle part. Là, essayer de chercher des commandites. Là.
Ah ben ça, c'est encore ça. L'argent de la fée est où, là? Les commandites de la fée étaient dans
l'Anicipi. C'est dans la cathédrale.
C'est dans l'Anicipi.
La cathédrale, Anicipi.
La cathédrale, ben oui, ça coûte cher, pour vrai. Là.
C'est ça qui se passe. Mais...
La cathédrale, c'est beau, par exemple.
Anicipi, tu sais, j'ai vu... Moi, je suis allé voir un Moment Factory à Noël, en janvier, en fait. Je suis allé voir Aura de Moment Factory à Basilique Notre-Dame, c'est ça, Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal.
Ouais.
Puis tu sais, ça dure 30 minutes, puis t'en as plein la gueule, mettons. Mm-hmm. Là, c'est... Au début, je fais OK, tu sais, c'est des projections. Puis là, ça continue, je fais OK, c'est ça, Mumman Factory, tu sais.
Ouais, ouais.
C'est ça, tu sais, mais ça, c'est une affaire, tu sais. Nous autres, on a quatre petites affaires.
Quatre petites affaires avec un budget qui est probablement 7 fois plus petit que les grosses c'est ça, affaires, tu sais. Moi, j'ai participé au montage, j'ai passé quasiment un mois à travailler là-dessus avec les gens de Mumman Factory, puis j'ai toujours eu des petits doutes parce que, sur papier, on nous a vendu que ça allait être rentable à un an, ça ne l'a jamais été.
Non, c'est ça, c'est ça.
Puis, ouais, tout le long, j'ai douté du projet.
Mais là, il y a des plans, là. Je peux pas en parler, mais il y a des plans par rapport à ça.
Oh. Ouais, ouais, ben,
ouais, ça va être des choses. Les prochaines projections vont être au PFK.
Sur les Renault.
Ouais, sur les Renault, il a enlevé le gros bucket, là, le gros seau. Oui, il l'a enlevé.
Ça fait longtemps qu'il pue, là.
Ben, je pense que c'est quand ils ont fermé la première fois, le seau.
Ok, on est revenu, on est au Kentucky.
Ils vont juste mettre un gros écran, là.
Mais qu'est-ce que tu faisais du son dans le fond pour Mumman Factory?
Non, même pas, man. Je faisais de la construction. Je passais des journées à creuser des trucs, passer des fils, poser des tuyaux.
Faisais tout ça pour la ville?
Oui, pour la ville.
T'étais, ok.
J'ai passé un mois plutôt qu'à ton théâtre, j'allais me faire chier
des. On va envoyer notre chef son creuser des trous.
Mais à l'époque, t'étais sûrement pas chef son.
En fait, je suis pas chef son. Ben,
non.
Bureaucratiquement, je suis chef son au théâtre. Mais
bureaucratiquement,
parce que dans un certain sens, moi, j'ai le poste qui vient avec le poste chef son, mais. Dans les faits, je ne suis pas chef son, c'est Yannick. Le chef son, ne serait-ce que par respect pour le fait qu'il y ait autant d'expérience que moi, j'ai d'années de vie, tu sais.
Ouais, en même temps, vous travaillez bien ensemble. Oui, qui le chef son, c'est vous deux, là, tu sais.
Ouais, c'est ça, c'est un respect mutuel.
C'est ça.
Non, Yannick est trop vieux. Faut le tasser, faut mettre Thomas.
Faut le tasser.
C'est ça. Mais tu sais, à Lissibi, ceci dit, là, j'ai pas encore vu celui de Picogan. Là, ça me.
Ouais. Ça a l'air que c'est plus beau.
Que ça va balancer mon opinion. Là,
tant mais... qu'à moi, c'est le meilleur.
C'est ça. C'est ce que tout le monde dit.
Ce que je me dis, ouais.
Celui de Picogan, tant qu'à moi, c'est le meilleur. C'est relativement simple, mais c'est une belle structure. Je trouve que c'est un.
Le film, l'histoire.
Une belle réussite architecturale, on va dire ça comme ça. Puis c'est un beau petit film. C'est super simple. C'est plaisant. Mon deuxième préféré, ça a été celui au Refuge Pageot.
Ouais.
Encore là, c'est même relativement simple.
Ça fonctionne, mais pour ça les fonctionne enfants.
Bien,
pour,
puis, j'ai quand même vu des bons retours là-dessus, ces médias sociaux.
Ouais.
Puis,
c'est concret, c'est interactif. C'est
hyper cher. Troubleshooter, là. J'ai fait une semaine. Ouais. Un été, j'ai fait une semaine de garde pour troubleshooter tout ça. Parce que c'est un aspect qui avait pogné à la game. Puis là, eux autres, ils partaient au Témis ou je sais pas où, faire un festival country. Là, il n'y a plus personne. Fait qu'ils ont dit, ben, Thomas, tu veux-tu faire ça pendant une semaine? OK, une semaine de garde, si je vais faire ça. Finalement, j'ai pas eu un call la semaine, sauf la dernière journée à 3 heures. J'étais, fuck, si j'étais à 2 heures de... J'étais à 2 heures
de clip.
Bon, ben, je m'en vais au refuge, mais j'ai passé... C'est tellement compliqué, les setups de Mumman Factory. Là.
Ah ouais?
Ouais, ouais, c'est pas de la petite guerre.
Je me suis fait chier à travers ça. Mais ça reste qu'au final, j'ai été payé une semaine à temps plein pour travailler 45 minutes, fait que je me plains pas.
Mettons l'application, ce qui est au refuge, c'est où, est où la guerre?
Dans
il y a
le
un
fond,
local juste pour ça, c'est sûr. Hein?
Tu sais, quand tu rentres dans la petite cabane à M. Pageot, juste à droite, il y a une porte drette là. C'est à peu près gros comme un petit closet. Puis c'est tout là. Il y a des racks d'exemple.
C'est des racks de vente, hostie, jusqu'au bout.
Puis il y a des trucs cachés dans le plafond. Il y a des projecteurs cachés dans le plafond à travers les petits cossins.
Non, parce que ça, essentiellement, c'est de la projection.
Oui, exact. Ouais. C'est juste pour que tout se parle puis que tout fait ensemble. Il faut tout que tu plumes. Puis c'est impressionnant, des racks de vente de setup dans
le
même. Hein.
Parce que là, il y a la salle où il y a des projections. Puis il y a le petit chalet. Ça, c'est. C'est pas Mumman Factory qui l'a fait,
oui,
ça.
Oui, oui. Ben, probablement que c'est pas Mumman qui avec l'a Lucas, construit. Pense, ça,
ils ont animé certains trucs dedans.
Oui, OK. Parce qu'il y a Lucas, je pense, qui a collaboré. Ça se peut-tu?
Ah, ça se peut, je sais pas.
Je pense que oui, mais...
J'étais impliqué, mais pas tant. Là.
Non, c'est ça.
Mais donc, Mumman Factory, t'es-tu fin?
Oui, super.
Au moins,
super
c'est une bonne victoire, ça.
C'est-tu ton frère?
Super plaisant.
Non, mon frère, t'es pas là-dessus. Mon frère, il a demandé à Mumman Factory.
C'est ça que j'ai trouvé dol, quand même, qu'ils disent non.
Ils ont pas voulu. Mais c'est parce que JP, il avait l'expertise. JP, tu suces. Non, mais il avait l'expertise des Lumina. Puis
ça, c'était pas un Lumina.
C'était pas un Lumina. Fait que lui, dans le fond, mon frère se faisait envoyer pour débugger toutes les. Quand il y avait des gros bugs majeurs qui commençaient à s'installer dans les affaires ou démarrer des nouveaux.
Partout dans le monde.
Ouais. Ouais, il est juste allé en Chine, aux États-Unis, à Londres, au Japon.
ça a l'air cool ce qu'ils font, les Gun Moment.
Ouais. Mon frère, pendant un bout, pour vrai, il était tanné de voyager. Là, j'ai dit, Chris, on t'aille avec les jeunes. Profite-en, là, tu vois le monde à travers ces affaires-là. Mm-hmm. Mais, tu sais, il a voyagé un bout pendant la pandémie aussi. Fait que
ouais, c'est
pas
ça, c'était
cool
pas au Japon
ça,
pendant la pandémie ou en Chine.
C'est une de mes anecdotes préférées, c'était en Chine.
Ouais.
Puis lui, à tous les matins, il fallait qu'il attende 2 semaines à l'hôtel. pour les tests de COVID. Puis tout. Puis
à tous les matins, il fallait qu'il attende deux semaines.
Non, non, j'ai cheaté les affaires. Mais pendant deux semaines, il fallait qu'il attende à l'hôtel pour checker s'il était correct. Puis, genre, il sortait pas de sa chambre. Là. La bouffe était livrée à sa porte. Puis tout. Puis, un moment donné, il y a un matin, il y a comme un petit panda dans son assiette. Il est comme, ah, c'est donc bien cool. Genre, c'est une belle petite pensée. Je suis super content. 10 minutes après, il y a une madame qui vient. Puis, elle dit, aujourd'hui, le test, il est dans ton cul.
C'est pour ça le petit panda.
À chaque fois qu'il y avait un petit panda, il faisait ah, calice. Le petit panda, c'était je m'en viens de curer le derrière.
Ah ouais, c'est bon ça.
Puis après ça, la Chine, genre, JP me compte ça, puis je pars à rire. Deux semaines après, je vais aux nouvelles, puis la Chine se défend d'avoir fait des tests anales.
Ah ouais, pour vrai.
C'est comme, ben oui, Chris,
c'est bon. Ah, tout ce qu'il faut, c'est efficace.
Tout ce qu'il faut. Ben. Mon frère est plus capable de s'asseoir, c'est que ça explose.
Mon frère, quand il voit un panda, il se tiendrait.
Ben oui.
Fait que là, si on reprend, t'es parti d'Alma, tu travaillais au Zénith, c'est ça?
Oui, je suis parti d'Alma, je suis allé vivre à Montréal en coloc avec une couple de potes. Je travaillais au Zénith, puis c'est ça, pendant la pandémie, je suis revenu ici. Puis moi, je dis souvent que j'ai été un grand gagnant de la pandémie. Honnêtement, la pandémie, moi, je suis fan au coton. Là.
Ouais.
C'est-tu que j'aimais ça?
Ah ouais?
Ah ouais, moi, j'ai pas ressenti tant de solitude. Ben, en fait, ce qui arrive, une des raisons pourquoi je suis revenu ici, c'est parce que je savais que je serais capable de travailler. Moi, je. Chaque fois que je revenais en région, j'allais faire une coupe de chiffres à l'accueil d'Amos. Je sais pas si tu connais ça, toi.
Un petit peu.
Puis fait que quand je suis revenu, j'ai dit hey, vous avez-tu besoin de monde? Puis ça tombe bien parce qu'il y avait beaucoup d'employés âgés. Fait que je me suis ramassé. J'étais revenu deux jours plus tard, je travaillais 70 heures semaine.
Tabarnak.
J'ai fait ça pendant genre 6 mois. Puis dans le contexte, j'ai rencontré ma blonde.
Okay. Elle travaillait à l'accueil, elle aussi?
Elle travaillait à l'accueil, okay. Puis elle est retournée.
Ah, parce que là, si ça avait été un résident ou une résidente, ça n'aurait pas été correct.
C'est pas éthique,
là.
C'est pas très éthique.
Elle était surveillante, elle aussi?
Oui, surveillante, exact.
Mais tu, je te paye un appart.
Tu vas sortir de ce trou-là.
Pour sortir du trou, il faut que je rentre dans le trou.
Si tu vas avoir ta pilule, c'est un bisou.
OK, c'est pas correct.
On a le droit de consommer chez nous.
Mais...
c'est lourd. C'est très poétique.
Mais oui, au final, tu sais, moi, j'ai ressorti de la pandémie avec une blonde, une maison, une job à temps plein, probablement pour la vie.
Ouais.
Puis, tu sais,
un
projet de télé qui est arrivé parce que je savais pas quoi faire de mon été. Chef monteur. J'ai aussi composé la musique d'intro.
C'est vrai.
J'avais pris ça, j'avais trouvé une session sur mon ordi. J'ai fait, hey,
c'était pas toute la musique qui était créée?
J'en avais créé certaines, puis il y en a certaines que c'était des musiques libres de droit.
Mais c'était
plus ou moins 40-60. Maintenant.
OK. Mais si tu l'avais... En fait, t'avais volé le générique de Sport 30.
Non, c'est juste une session où j'avais trouvé sur mon ordi que j'avais enregistré. J'ai fait « Ah! »
C'est la tune que t'as faite, Matt, c'était AT360.
Ah oui, c'est ça. Oui,
ça, c'était la tune d'AT360 que tu viens de voir.
Il me semble qu'on faisait le même gag quand on commençait à tourner. On faisait toujours la tune de Sport 30 avant de starter nos talks.
C'est pas une joke de vieux.
Mais fait que dans le fond, c'est des vieilles tracks que t'avais sorties pour faire le...
Ben, moi, pendant la pandémie, là, j'avais rien à faire. Puis je me suis dit...
Le créateur.
Check, je suis capable d'utiliser un ordi. Je suis capable d'utiliser des DAW Pro Tools, tout ça. J'écoutais beaucoup d'hip-hop dans ce temps-là. Je me suis dit, ça a l'air facile. Je vais faire du hip-hop. Fait que j'ai passé une bonne partie de la pandémie juste à produire du hip-hop. Puis à faire des beats, puis à vendre ça, puis à donner à du monde, puis faire du beat pour des gens. Puis...
Qui tu chantais pas, tu faisais vraiment juste
non,
des
non,
beats?
Non, non, moi je chante pas, je rappe pas, ça m'intéresse pas partout. Moi je faisais juste des beats. Moi j'aime ça les toits. Tu sais, je veux un show de hip-hop, la partie que j'aime le moins c'est quand je chante. Moi je veux juste entendre les. C'est tout ce qui m'intéresse. Fait que je me mets à faire ça, puis j'ai fait ça tout le long de la pandémie. Ça a été bien le fun. Puis c'est ça, une bonne partie des tracks que j'ai utilisés dans
Prépa 3,
c'était des beats de hip-hop que j'avais fait puis qui sont sur YouTube. Pis...
Nice. Pour mettre en contexte les gens, Prépa 3, c'est pas un Prépa 3 avec un homme ou deux hommes et une femme ou deux femmes.
Je m'appelle Mathieu.
Il est un peu tard parce qu'on a mentionné Prépa 3 genre dans les dernières 40 minutes à peu près.
Ouais, c'est ça.
Ouais, non, je sais pas. Il est un peu tard, mais les gens qui sont à l'écoute vont le savoir.
Les personnes choquées sont déjà parties.
Moi et lui.
En fait, les gens n'étaient pas choqués, ils sont restés parce qu'ils étaient contents. Ils fait comme, oh, on fait quelque chose d'intéressant. Puis là, Ben, t'es en train de péter les ballons.
Il parle de sexe.
Déçu, je pensais voir Matt Prou tout nu, finalement il est juste en chest.
Ah, mais on l'a
peut-être
vu en chest.
Un jour sur le Patreon.
On l'a vu en chest en Trépa 3. Dans le fond, c'était un parcours épicurien sur le Bitibi de Témiscamingue. C'était quand même bien intéressant, co-animé avec Mathieu et Mathieu.
J'ai quand même peur des hauteurs, mais qu'est-ce que la caméra pourrait pas me faire faire?
T'avais peur des hauteurs, mais.
Tu voulais pas salir ta chemise, c'est que tu l'avais enlevée.
Ouais, c'est ça, on s'était posé la question, genre avant-hier, pourquoi ouais, t'avais enlevé ta chemise?
Parce que c'était trop serré, puis c'était pas confortable pour grimper.
Ah, OK. On pensait que c'était parce que tu voulais pas la salée. Il
fallait en chest, puis en même temps, on a gagué là-dessus, là, c'était bien lourd.
Ouais, j'ai gagué aussi.
Comment?
Je pensais que c'était l'introduction à Antoine Lefans.
Ça aurait été bon, je pense. C'est parce que, en fait, c'est ça, c'était ça le gag, c'est que j'ai clairement pas la shape pour me mettre en chess à TV, mais en même temps.
Je suis pas mal sûr qu'un OnlyFans avec tes petits hiboux furibonds, ça pognerait au bout.
J'ai vu, ben, je suis rendu comme un gros.
T'es rendu un
gros ours sur les furibonds.
Il y en a pour tous les goûts.
Ouais, c'est ça. Oh, OK!
Je dis ça comme si je m'y connaissais.
S'il y a des gens à la maison.
J'ai magasiné.
S'il y a des gens à la maison qui aimeraient ça que Mathieu Proust rouvre un OnlyFans, ben on va le faire. Faut qu'il y en ait au moins deux personnes, ça étant.
C'est dangereux.
Au moins deux.
C'est dangereux.
Des photos de pieds, Matt.
Oui, c'est vrai.
Ça marche. Ça marche.
Envoyez 20$ sur le compte PayPal de AC Productions.
On va vous envoyer les textos.
Lien dans la description. Là, avec deux 20$, ils vont en avoir 40. Ça va être vraiment bon. 40$, vous avez deux pieds.
J'envoie des sextos, mais je demande le consentement des gens avant.
Oui. Bonjour, je suis là pour te sexter. Est-ce que t'es d'accord?
Bien sûr!
Peux-tu te montrer ma quiche?
Ouais, si. Ça me fait penser à des vidéos qui me font rire en ce moment. C'est sur Omega. C'est Kermit qui
ça
montre sa queue
ça,
à tout le monde. C'est mort en novembre.
Ouais, c'est ça.
Okay. Ouais.
Mais c'est genre Kermit the Frog. Là.
Ouais. Mm-hmm.
Il parle à du monde, puis le mané finit par sortir un cocon.
Ouais, ouais. Il montre son pénis. Ouais. Ouais.
Ah, il y a plein de monde qui sont comme « Ah, Kermit! » Puis il dit « Hey, hello! You wanna see my dick? » Puis le monde « What?
» Avec la même voix puis tout. Là.
Moi, je pense que ma vidéo préférée que j'ai vue dans ce sens-là, ça me fait penser, c'est un gars qui est sur Omegle ou whatever, truc comme ça. Il y a genre 60 caméras autour de lui dans son setup.
Ah oh, oui!
Puis il fait comme si, tu sais, quand tu changes de personne sur Omegle, il y a comme un genre de,
ouais, le loading
de
screen.
Statique, de loading screen. Fait qu'il intègre le loading screen, puis il fait juste changer de caméra, puis tout le temps, lui, là, tu sais, il y a genre quatre plans dans la chambre. À un moment donné, il y a un plan dehors, il tourne sa tête dans la fenêtre.
C'est incroyable. Celui-ci, la caméra qui pointe, il la regarde tout le temps. Mais il y avait un autre gars qui avait fait ça, puis sauf que là, mettons, un premier gars qui va, puis là, il mettait une fausse statique aussi, pour comme s'il changeait de personne. Mm-hmm. Fait que là, il y avait une autre personne, genre une fille.
Ouais.
Puis là, il commençait à parler, puis le gars, il arrivait dans la chambre. Puis là, ça fermait. Le...
Ouais, puis il avait toujours fait de quoi de weird. Fait que la personne, quand il arrivait sa deuxième personne, disait « Ah, j'ai tombé sur une affaire tellement weird. Un gars chaud avec une grosse moustache qui me posait des questions bizarres. » Puis le gars, il arrivait et dit « Quoi? Qu'est-ce que tu dis sur moi? »
C'était une couple de fois comme ça. C'était parfait, là. C'était toutes bon. Les fois, des comédiens, j'imagine, là, mais qui jouaient ça, là, puis c'était comme tout le temps une voix. « Yo, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, il y avait le dos qui arrivait. C'était parfait.
Mais ça, c'est drôle. T'sais, c'est fermé maintenant, mais gars, c'est quoi tu disais?
C'est fermé.
Parce que ça facilitait la pédophilie.
Ouais.
En même temps, les réseaux sociaux, en général, ils vont toujours trouver une façon de...
Ben, c'est le propriétaire a fait une déclaration. Il dit « Je trouve ça plate que c'est nous autres qui tombent là-dessus. » Mais tu sais, il dit « Je comprends. On essaie de maximum que ça n'arrive pas. »
Ça a trendé.
Il y a une limite de contrôle qu'on peut faire.
Ils ont ciblés, mais...
Ouais, mais ça a été aussi très populaire envers les jeunes, les gens qui étaient
TikTok,
au secondaire.
C'est la même chose, là. Je veux dire, là maintenant, il y a plus d'adultes. C'est plus contrôlé.
Le contenu sur TikTok est contrôlé. Mais qu'est-ce qui est live, tu peux pas le contrôler.
Ouais, c'est ça,
fait que si c'est un enfant qui est là, puis que t'as un dude de karaté qui dit hey, montre-moi tes nipples, puis il fait, tu sais, je veux dire, il y a pas de contrôle par l'entreprise.
Ouais, c'est live, est-ce que c'est wack.
Sur TikTok, ben, t'uploades la vidéo, puis il y a un robot qui check ta vidéo, puis qui dit ça c'est fair, ça passe.
Ouais.
Comme sur YouTube, sauf que sur TikTok, il te dit pas que t'as utilisé de musique pas à toi.
Ah ouais?
Ah, je sais pas, en fait, j'ai jamais uploadé sur TikTok.
Ah, mais là.
Parce que c'est quand même une. Tu sais, TikTok, c'est quand même une culture de la réutilisation de musique.
Mais c'est ça, comme ils disent, je pense qu'ils sont une banque.
Ils ont leur banque, je pense que c'est Spotify, dans le fond, qu'un partenaire qui met tout.
Non, il y a. C'est un, et là, on parle de TikTok, là.
Ben, mais c'est Instagram.
Général.
Mais mettons TikTok, il y avait un accord avec des gros diffuseurs.
Ouais, c'est ça.
Les grosses compagnies d'agence. Puis là, tu sais, Taylor Swift, puis toute l'agence qu'elle a, là, ils ont
tout retiré.
Ben,
c'est pas UMG, hein?
Ah ouais, okay. UMG.
Hier, j'ai vu passer ça, UMG qui sont sortis de ça. Fait que tout le contenu qu'utilisait leur musique, ben, probablement, qui va être délité.
Je pense que c'est ça, Facebook, Meta, je pense que c'est Spotify, carrément. Je l'appelais Spotify.
Ça se peut, ouais.
Mais fait quoi? Fait que là, avec Spotify, ça, je pense que ça rentre dans les stats.
Ça rentre dans les plays, tu sais, pour à peu près 2 millions de vues sur ton TikTok, tu vas gagner à peu près 7 cents.
Créatine, vous faites de l'argent, Spotify?
Créatine, on a fait zéro argent. Non, en fait, Créatine n'est pas sur Spotify. Créatine est seulement sur Bandcamp. On a fait 4$.
Un donateur ou deux?
Un seul.
Quand même.
Qui a acheté notre album une fois. On a pris ces 4$-là, on a investi en publicité sur Facebook.
OK.
qui a reaché 7 personnes.
Là, non, mais pas, ça si commence quelque part. Vous n'aviez pas bien ciblé, je pense.
Non, bon,
on veut les personnes
moi,
de 69 ans et plus.
Je viens de recevoir 4 pièces mon album, je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire de stupide pour faire rire mes potes? Ouais. Je vais
mettre de la pub, je vais pièces. La cibler à Kembuktu.
Non, on avait quand même ciblé pas pire. Là, mais... que...
acheter des... juste des canchons. Hey, on a fait 4 pièces, j'ai acheté des canchons.
Mais ouais, 4 piastres passées, il faut que tu mettes minimum 20 piastres pour que ça se propage sur comme 4 jours, 5 jours.
À l'époque, là, ça doit faire un petit bout. Là.
Ouais, c'était quand on a sorti notre deuxième EP alors que le band n'existait même
plus. Parce que vous 10 ans, 2018, genre. Vous 10 ans, c'était vraiment différent pour la pub. Là, tu allais reacher vraiment plus de monde.
Ben, vous 10 ans, je ne me rappelais pas si on pouvait faire de la pub sur Facebook. Ouais, on pouvait déjà.
Ben, là, je sais pas exactement, mais à l'époque du début de Facebook pour les pages et tout ça. Tu voyais tout le contenu, il n'y avait pas. C'était pas 1% du monde.
Oui, non, c'est ça. C'était vraiment plus facile de juste faire monter ton compteur de likes sur ta page.
Ouais. Ah ouais, dans le temps, les algorithmes sur Facebook étaient pas mal plus faciles à contrôler maintenant.
Mais là, c'est parce que tout le monde est là.
C'est ridicule. J'ai écouté deux vidéos de droite parce que j'étais curieux d'entendre ce qu'ils disaient. Puis là, je suis empoisonné.
Il faut pas faire ça, Pierre.
Juste des vidéos de Mathieu Bock-Côté.
Non, mais c'est de la droite américaine en plus. Là.
Ok, ouais, ouais.
Fait que genre, je vois du monde qui vend
trop. Va sur X au moins pour faire ça. Tu vas pas se craper.
Je fais attention, mais des fois, pendant la pandémie, j'aimais ça écouter des vidéos de conspirationnistes. Je trouvais ça tellement drôle.
Oui. Et surtout quand ils font des expériences. Ouais, ou pendant les feux de forêt.
Tu sais, le gars qui mettait le feu là, dans le sumac ou whatever.
Ouais.
En tout cas, je trouvais ça bien drôle. À chaque fois que je fais ça, je le regrette parce que deux jours plus tard, il y a juste
ça. C'est juste ça, pogné ça.
Je parlais de Radio-Canada tantôt, puis j'ai écouté le bêtisier d'Olivier Niquel. Il met souvent les Reels Instagram. Là.
Ah ouais, je sais définitivement c'est qui.
Il mettait Michel Blanc. Qui parlait de la droite américaine. Puis là, elle racontait que là, s'il était. Tu connais-tu Michel Blanc, un spécialiste des réseaux sociaux, femme trans, là, okay. 70 ans, genre. Donc, moi, j'étais plus jeune que ça. Puis là, elle disait si j'étais aux États-Unis, je voterais Trump. Là. Bon, pourquoi? Ben, parce qu'en ce moment, c'est une invasion d'immigrants aux frontières. C'est tous des Chinois en âge de combattre. Que Olivier Niquet fait « OK, c'est ça. » Fait que là, il y a une invasion de Chinois aux frontières mexicaines en âge de combat.
Nice.
Je fais
nice.
La spécialiste du web est allée un peu trop loin dans le web, on dirait bien.
Assez planté.
Elle a trouvé le rabbit hole, elle est tombée dedans.
Ah ouais.
Que tu tombes dans ces affaires-là, comment, à quel point le monde en tombe là-dedans?
T'sais? Ben, tu sais, je me suis souvent posé la question, justement, comment tu peux te rendre aussi loin? Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a des... qu'il y a des tunnels d'enfants en Ukraine.
On avait un gars qui était venu au podcast qui s'appelle Frank...
Zappa.
Non, j'aurais aimé ça, Frank Zappa, mais on n'est pas... Frank, voyons.
Duarnet.
De Rouen, là?
Parker. Ouais, de Rouen. Frank Pocket, qui disait que... L'explication la plus simple, c'est que c'est des baby steps. Les marches sont ça d'autres. C'est... Fait que genre, t'en marches une, t'en marches
une. C'est l'endoctrinement.
Ouais. Ben, c'est la pyramide de l'acceptation, quelque chose dans le même. C'est exactement où je m'en allais, sauf que tu l'as mieux expliqué.
Oh. je savais pas.
Merci. Non, c'est correct.
Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, le temps que tu te rendes compte que t'es rendu dans des affaires fucking deep, t'es rendu loin en...
L'histoire de l'escalier, là, quand tu te tournes de bord, tu sais comment t'es haut, tu veux pas aller plus. Tu sais, tu veux pas tourner plus bas, tu peux pas, c'est impossible.
T'as tellement accepté de petites choses qui a amené des choses qui sont immense, tu finis par les accepter parce que tu as accepté toutes les prémices qui t'amenaient à accepter ça.
C'est ça. Puis ça comble un vide aussi parce que tu comprends pas des choses. Fait que là, ils cherchent à les comprendre par ces affaires-là.
Les réseaux sociaux, ils les ont mis en contact. Parce qu'avant, il y en avait un par ville, deux par ville, trois par ville. Là, ils ont un réseau. Il y a une chambre d'écho.
Oui, carrément.
Je suis pas tout seul à me poser des questions et avoir besoin d'être rassuré. Je suis bien content. T'sais.
Non, tout le monde se pose des questions à l'affaire. C'est juste qu'ils n'acceptent pas toutes les réponses.
C'est ça. Ouais. C'est les gens justement qui vivaient une certaine anxiété avec ce qui se passait, qui avaient besoin de savoir ce qui se passait, puis qui ont trouvé des réponses qui, eux, leur convenaient.
Moi, ça me ferait que les gens qui écoutaient le plus TVA, maintenant, c'est les gens qui haïssent le plus TVA.
Ah ouais, des fois.
C'est ça qui est weird, ouais. C'était ça. C'était leur source. À TVA, c'est leur source pour essayer d'aller chercher leurs réponses. Là, ils ont fait ah, on a d'autres choses plus accessibles. Là, ah non, ça dit pas la même chose, je suis d'accord avec eux autres.
J'ai toujours détesté TVA, mais pendant la pandémie, je me suis comme dit hey, je pense j'ai quasiment le goût de recommencer à écouter ça.
Visiblement, ça semble être la source la plus crédible.
Mais je pense que c'est juste comment dire, une question de vouloir faire front. Là.
Ouais, carrément, complètement. Là. Ben, en fait, donc, au Québec, t'as TVA, t'as Radio-Canada.
Ouais.
Fait que, t'as TVA, t'as c'est un peu notre Fox News. Là. Je mets des gros.
Sonne à Toronto. Là, ouais.
C'est notre média sensationnaliste, mettons. C'est ça.
Show TV, mettons, nouvelle spectacle.
Ouais, je me rappelle en. mais la raison pourquoi je pense que ce que tu dis est vrai, que c'est un peu Fox News, c'est que je me rappelle en 2012, j'étais jeune, là, c'était les manifestations étudiantes.
Ouais.
Puis je me rappelle que le traitement, à cet âge-là, je m'étais rendu compte, puis j'avais vraiment trouvé ça intéressant que le traitement médiatique des événements sur chez TVA ou chez Radio-Canada était sensiblement différent. Était très opposé. Tu sais, d'un côté, justement, TVA était un peu plus de droite, on va dire ça comme ça, champ droite. Puis les étudiants étaient soit une menace, soit des petits crises de bourgeois
qui dérangent,
puis qu'ils devraient juste fermer le gueule. Puis chez Radio-Canada, c'était un peu plus complaisant, tu sais.
Mm-hmm.
Puis c'est tout, c'était la fin de mon année.
Puis à cause de ça, en fait, ce qui est arrivé, c'est que là, ces médias-là, justement, ont perdu la crédibilité parce qu'à un moment donné, à force de dire c'est les étudiants qui dérangent, blablabla, mais la réalité, c'est que surtout à partir d'un certain moment, ce n'était plus que les étudiants. Là.
Mm-hmm.
C'était la population. Là.
Ben oui.
À partir du moment où Charest a dit on va leur trouver des jobs dans le Nord, ce n'était plus que les étudiants. Tout le monde a fait comme non, là, tu erres totalement. Québec n'est pas d'accord avec ça.
Ils ont utilisé des tactiques vieilles du monde. Il y a des manifestations, tout est tranquille. Ils collissent une ligne de police pour que le monde pogne les nerfs. Puis après, ils lancent la police dans le top. Puis là, quand la mère des pognes, ils prennent des images. Les enfants font ça.
C'est le meilleur moment du conflit étudiant, les meilleures images, puis c'est encore sur YouTube, c'est les images des manifestants qui courent, qui se font courir par la police. C'est un peu violent. Puis t'as la musique de Salut, bonjour. Des matraques sur l'allée. Fucking parfait.
Encore un petit matin tranquille à Montréal aujourd'hui.
C'est au congrès libéral à Drummondville, si je me trompe pas, c'est ça, parce qu'il avait attaqué les lieux.
Je me demande si Gino, quand il fait Salut bonjour, il a le feed, puis il a vu ça arriver avant de faire son intervention. C'est excellent.
Moi, ce que j'avais ri, c'est qu'il y avait des médias indépendants, des étudiants qui filmaient les tout en temps réel.
Oui, oui.
Puis à un moment donné, j'écoutais ça chez nous, j'étais bien tranquille. Puis là, à un moment donné, je vois une police qui ramasse du monde, qui colle sur un mur, puis commence à les fesser dessus. C'était Daisy, puis mes chums de l'Ouest.
Vrai,
okay. Puis là, il était comme qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Il dit arrête de manifester! On sort du bord! On n'a même pas rapport!
C'est les débuts de Facebook Live, hein, je pense, c'est ça, dans ce temps-là. Nice. C'est ça, nice. C'est weird.
Hey, j'étais comme là, je texte Daisy, je dis hey, je viens de te voir à TV.
C'était parfait.
Oui, ben, on en avait parlé, puis elle était quand même. C'était rough, là.
C'est rough en Christ, ils s'en fait ramasser encore.
Ouais, ouais, elle est arrivée au mauvais moment, mauvaise place.
Il y avait des histoires de fauteurs de troubles aussi. Il y avait des policiers. C'est probablement le cas à toutes les fois, là. Ouais, je suis pas naïf. Mais il me semble qu'il y avait des policiers, justement, habillés à civils qui allaient foutre la merde.
Pour comme justifier. C'est pas nouveau, ça.
Il y a tout le temps, c'est ça, le Black Bloc, puis là, aux États-Unis, c'est le fantôme de l'Antifa, le groupe Antifa. C'est pas un groupe organisé. C'est des astis d'anarchistes qui sont comme OK, il y a une manifestation, je me crie sans noir, je vais aller pitcher des roches chez la police. Mm-hmm. Sortez-les, lui. Sortez ces petits éléments-là de la gang. Puis souvent, ils sont même pas contents. Le monde qui manifeste, sont comme hey, Chris,
on se calme, on n'est pas là pour ça.
Mais la police fait comme oh, j'ai reçu une roche, parfait, on sort les tanks.
That's that.
Ouais, mais.
Il n'y a pas de mesure, là.
Tiananmen Square 2.
C'est pas pour défendre les polices, mais c'est leur technique.
Le Black Lives Matter contre le Capitol Hill aux États-Unis. Genre, t'as Black Lives Matter, le congrès, il y a des polices avec des guns partout aussi, il y a des barreurs partout, puis tout, c'est l'enfer. Le 6 janvier, Trump, il déclare la merde, puis la merde pas au Capitol, puis il n'y a pas de police, il n'y a pas de sécurité. Il y a deux mesures.
Ouais. Je viens de catcher aussi que tu t'en allais avec ça,
Tu sais, tu fais comme.
Ah, c'est deux poids, deux mesures.
En tout cas. De pogner de turn, hein?
Ah, mais c'est pas plus facile de frapper sur des jeunes que de frapper sur des vieux.
Oui!
Les vieux, ils ont l'argent de se payer des avocats.
Ouais,
ils ont potentiellement des guns parce qu'on est aux US.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Ouais, je pense que les jeunes aussi, là. Je pense que quand tu nais, t'as un gun. C'est ça ton numéro d'assurance sociale, c'est ton numéro de série.
Ta green card.
ton petit Beretta de naissance.
Un Beretta d'enfant.
Ouais, ben j'écoute beaucoup Grey's Anatomy, c'est un site, puis j'ai vu dernièrement que dans le NICU, ils ont installé un petit distributeur, t'achètes ton gun pour ton enfant en sortant, puis va payer ton 250 000 pour accoucher.
Ah oui, c'est le classique de Bowling for Columbine, là, que à chaque adhésion, t'avais dans une banque, ils te donnaient un 12.
Ah ouais. Ah oui, je me rappelle, j'avais déjà vu, t'achètes une grande caravane, t'en reçois une 303. C'est bon, Bowling for Columbine.
Ouais, les R15, là, ils donnent n'importe quoi. Là,
sur Amazon Prime, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je fais qu'est-ce que c'était bon, ça?
Ah ouais, c'était bon. Puis,
en fait, un 2, d'ailleurs.
Je sais pas si
il y a deux.
Comme une suite. Là.
Mais il a fait plein de documentaires.
Parce que tous ces documentaires, ça ressemble un peu. C'est peut-être ça qui te confond.
C'est peut-être ça.
Ouais.
J'en avais écouté une couple quand j'étais plus jeune. Puis
celui de 9/11. C'est intéressant. Je me souviens plus comment il s'appelait, ça. Fahrenheit
9/11. Ah oui, c'est ça, ouais.
Qui parlait de la réponse, puis...
Dans le même moment, il y avait Morgan Spurlock aussi avec Super Size Me.
Ouais. Ça, sais-tu ce qui s'est passé?
Il y en a fait un deux.
Super Size Me, tu sais quoi la réalité de ce show-là?
Non.
C'est pas le McDo qui l'a rendu malade.
Non.
C'était un alcoolique.
OK.
Il avait le foie des calices parce qu'il prenait trop d'alcool.
Ah, wow. Ouais.
Mais il a fait un Super Size Me 2, t'as raison. Puis cette fois-là, c'est pas qu'il mange comme un fou, mais c'est qu'il sauve un fast-food de poulet.
Ouais.
Puis il démontre la réalité de tout. Je l'ai écouté, c'est super intéressant.
Mais le premier aussi, c'est que, tu sais, je pense que n'importe quel restaurant, n'importe quoi que tu vas manger, que même si ça serait l'épicerie, si tu manges tout le temps les grosses portions, puis tu te forces pour tout manger, c'est sûr que tu vas finir de même. Peu importe qu'est-ce que tu manges.
Sauf que là, tu sais, vu qu'il est un alcoolique, puis qu'il est pas comme quelqu'un en santé, il vient de perdre toute crédibilité, on peut pas savoir les effets réels à long terme.
Ben, c'est ça.
Fait que, tu sais, moi, ça m'a fait pisser de rire, j'étais comme c'est drôle.
Je sais que c'était très scientifique de base, là.
Ben,
c'est comme notre mangeur de poulet cru, là.
C'est classique, tu sais. C'est fait comme, OK, j'ai une question scientifique. Qu'est-ce qui arrive si je mange pendant un mois? Fait que c'est quoi la démarche? Bon, ben, je vais manger du McDo pendant un mois, puis je vais faire un suivre.
Il y avait une thèse.
Il y avait l'alcool. L'autre côté qui.
Moi, j'ai fait ça, moi, quand j'étais jeune.
Manger du McDo pendant un mois?
Oui, mais je travaillais là. Il ne me coûtait rien manger.
Tu ne mangeais pas que ça.
Toutes les fois que je travaillais, je mangeais ça.
OK.
Quand tu travailles, les fêtes.
À l'époque, tu mangeais juste un gros crise de repas par jour.
Non, je mangeais. Mais
tu déjeunais-tu là, des fois?
Oui.
Les crêpes, les pancakes au McDo sont fucking bonnes.
Ouais, mais les McCrêpes, c'est meilleur.
Ouais, les McCrêpes, c'est super bon.
Ouais.
C'est genre. Pendant un bout, ils faisaient le Supreme, là, qui c'était comme une un genre de McCrêpe avec saucisse, bacon, double bacon. Ouais. C'était bon.
Incroyable.
Ils l'ont enlevé deux semaines plus tard, je sais
pas. Deux semaines plus tard, ouais.
Que je n'ai pas acheté assez.
C'était juste une promotion.
C'était trop calorique.
C'est comme le McRib.
Le McRib.
Il est back, hein?
Ouais, il est back.
Ben moi, il est back.
Si je veux savoir qu'est-ce qui se passe au McDo, ben moi, je check. Je check le Facebook de Joe Lemay.
Ouais, Joe Lemay.
Salut Joe, merci de me donner toutes les
Il y a deux affaires qui me tient au courant, Joe Lemay. Ce qui se passe au McDo, puis je suis au FME.
Merci Joe.
C'est quoi, c'était la photo avec des vedettes? Ouais. Il y avait Sarah May,
il y avait
Louis-Jean Cormier,
il y avait
Antoine Bertrand.
Pierre-Marc
Lange.
C'était là deux ans, ça, Antoine Bertrand, me semble.
Ouais.
Ah, c'était l'année 20e.
Ouais.
Ah, c'était drôle, ça.
Je me rappelle, j'étais en train de faire. Cette année-là, j'étais au Diable Rond, puis j'étais en train de faire des soundchecks en fin de soirée, puis je vois justement Antoine Bertrand rentrer. Je le reconnais pas comme pas. Là, je suis comme, Chris, hey, ce gars-là, je savais pas qu'il y avait un gars à Rouen qui ressemblait à Junior Bougon. Là, je sais pas, mais un peu plus tard, je m'en vais me promener, puis je rencontre Chris. OK, attends un peu, là, pourquoi il y a des photos d'Antoine Bertrand? Tabarnak, c'était lui.
C'est Junior Bougon.
J'aurais dû lui dire que finalement, se mettre un furet dans le cul, ça fait mal en Chris.
Oh, calice. Oh, man. Parce que là, tu crées, c'est pour ton jeune âge, je t'en ai fait en tabarnak des shows, même pour vrai.
Ouais, c'est ça.
Quand même beaucoup. Ben, tu sais, moi, j'ai commencé à faire des shows. Je devais avoir 17 ans. Non, je devais avoir 18 ans. Si, j'ai commencé dans les bars.
Ouais. Okay.
Ben, tu sais, avant, je faisais des shows comme musicien. J'ai commencé à faire des shows comme tech, plus ou moins 18 ans dans les bars. C'était ce qui me faisait manger quand j'étais
au Saguenay. Au Saguenay?
Non, ça, c'est quand j'étais au Saguenay.
Ouais, c'est ça, OK.
J'étais allé au cégep, j'ai fait mon cours. Puis à un moment donné, je me sentais assez à l'aise pour aller faire des shows dans les bars. Puis on m'en a offert. Fait que je me suis mis à aller faire ça. Je faisais ça pas mal toutes les fêtes de semaine ou un ou deux soirs. Puis c'est ça qui payait ma bouffe. C'est ça qui me faisait vivre, qui payait mon pote. Puis honnêtement, ça fait depuis que j'ai 18 ans que faire de la technique de scène, c'est ce qui me fait vivre.
Fait que ça fait 3 ans, ça fait 3 ans que tu vis de ça.
À part les 70 heures. À part le bout où tu as travaillé 70 heures à l'accueil, maintenant.
Ouais, à part le bout où j'ai travaillé 70 à 90 heures par semaine.
Mais ça a duré juste 6 mois, pareil. Là.
Ouais, ça a duré juste 6 mois.
Quand même.
Puis après ça, je me suis mis à me faire offrir justement des jobs ici, au Meglab, justement.
Mm-hmm.
Puis là, je me suis dit, bon, là, je veux. Moi, c'est ça que je veux faire. Puis j'avais comme décidé de revenir. J'ai fait, ben, là, je vais arrêter de travailler ici. Et moi, je vis encore chez mes parents à ce moment-là. Je fais, je vais arrêter de travailler ici, je vais me libérer mon temps. Puis je veux comme ça, quand on m'offre quelque chose qui m'intéresse puis qui va me permettre d'arriver où je veux être, je vais être capable de le faire. Fait que je faisais des beats, je faisais des petits contrats sur sur Upwork.
Okay.
Je faisais du montage vidéo pour des hosties de projets de marre.
J'ai pas eu saison 2. Hein?
Puis ça, c'était en deux. Ouais, c'est ça. C'est cet été-là. Puis c'est l'été, j'ai acheté ma maison. Je me rappelle, j'ai fini de monter ça dans ma maison.
C'est vrai. Okay. Ouais. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on avait parlé de cet enjeu-là.
Si vous, les trips à trois, ceux qui nous écoutent, qui sont curieux, là, sont toujours disponibles sur YouTube. Ouais. Puis Thomas glissait des petits messages, des fois, subtils, au fil de la saison. Il y a une petite storyline en back des épisodes.
Ouais, tu te permettais de faire des petits commentaires.
Oui, je m'en rappelle.
Des fois, tu me répondais.
Des fois, ça passait pas. Par exemple, je me rappelle que Benoît, il y en a quand même killé un ou deux.
Ouais, ça, c'est vrai.
Puis ce qui m'a fait le plus mal, on a déjà parlé, mais j'en reparle parce que le monde va trouver ça intéressant. C'est que j'avais fait un... Tu sais, justement, on parlait du bout où vous êtes allé faire de l'escalade, on excluant la personne qui parle. Puis moi, j'avais fait un hostie de beau montage parce qu'à base, c'est Higgins qui montait. Higgins, il a choqué as fuck. Puis j'avais fait un hostie de montage. C'était hilarant, man. 50 secondes de montage. Puis c'était vraiment drôle. Puis j'ai envoyé ça. Puis j'étais vraiment fier de ma shot. J'ai envoyé ça. Benoît, il fait « Ouais, non.
» Pour vrai?
Fuck, si. Fait que là, tu
j'ai jamais c'est quoi, c'est Higgins qui coward, dans le fond? C'est Higgins qui...
Ah ouais, des gros plans sur sa face, même, qui est vraiment pas à l'aise.
Ok, ouais, c'est ça. Ouais.
Ça me faisait beaucoup rire.
Mettons, ça aurait pu fonctionner, mais tu sais, il aurait fallu que l'angle soit différent. Mettons, ouais, c'était...
C'était à la limite du mean, mettons.
C'était limite de l'intimidation. Ouais. Honnêtement, c'était limite de l'intimidation. Comme mais quand je ris de sa façon de prononcer SKR.
J'ai quand même très ri. Là.
Ah ouais, c'était possible. Très drôle. Mais tu sais, je t'en veux pas, je comprends ton point. Finalement, j'ai fait un montage moins bon sur toi.
Parce que moi aussi, j'ai failli choquer, en fait, là, cette affaire-là. Un moment donné, j'ai fait, quand je redescends, je ne me rendrai pas en haut. Puis là, le coach, il était quand même bon. Il dit, non, continue, tu sais, t'es presque
plus facile
rendu.
Aller en haut qu'à retourner en bas. Vas-y, ah ouais,
là, j'arrive en haut, puis je fais, là, moi, je redescends pas, je refais le tour, là. Puis finalement, je me laisse aller.
Non,
je,
mais
là, t'as, okay,
t'as descendu
un
rappel.
Oh, oui, je l'ai fait.
Il me semble que oui.
Oui, je me suis convaincu, mais le premier mouvement, quand tu te mets de dos dans le vide, là, j'étais vraiment pas à l'aise, là, mais j'étais content d'avoir fait ça. Ouais.
Mais je te comprends, puis tu sais, je ris bien, mais moi, j'ai peur de hauteur au coton. Ouais, fait que moi, je me serais rendu à peu près à hauteur de la table. Moi, je monte dans un escabeau, puis après, à 5-6e marche, là, pis pense que, plus à moi.
J'ai monté dans les murs d'escalade quand j'étais plus jeune, des murs de la Majou des Neiges, du crépé de ma commode, puis avec des prises, puis tout, pis c'est quand même facile. Mais monter sur une paroi rocheuse avec des très petits rebords, puis des prises, c'est... C'est pas aussi clair, là. Fait que c'est vraiment fucked up. Même si,
corps de rappel?
Même si t'es mais attaché, oui. Tu attaché. Le sens que t'es attaché, mais si tu t'accotes pas, c'est comme si t'étais dans le vide, là. Ouais, c'est reste... vraiment le feeling d'être dans le vide.
Mm-hmm. Puis ça reste que j'imagine qu'il y a aussi l'effet du rond rouge, là. Tu sais, que quand tu payes sur record, là, tout est plus difficile, là.
Ouais, c'est ça aussi. C'est, mais en même temps, il y a l'effet aussi que, là, bon, ça si je peux égo. Pas, mm-hmm. je peux pas me planter, ouais, faut que je le fasse. Tu sais, il faut que j'aille au bout, là. Tu sais, mais.
Je sais que quand tu enregistres de la musique en studio, là, le meilleur des guitaristes va te faire une petite take de marde juste parce que tu as payé sur record. Des fois, ouais. T'es mieux de pas y dire tu payes sur record, puis ouais, il va te faire ça. La bonne take drette. Là.
Mm-hmm. Tu as vu tantôt, Steve, il ne l'a pas dit quand il a starté, on a starté.
Ok, on a starté.
Une heure plus tard.
Je sais, ça fait genre une heure que je me dis, il n'y a pas d'intro. C'est un podcast là. Non. Pas qu'est-ce qui se passe.
Non, puis là, j'étais vraiment content, c'est la première fois qu'on réussit à pas le mentionner que l'intro était. On était dans le podcast. On le fait une heure après maintenant.
Comment qu'on commencerait ça, ce podcast-là, aujourd'hui?
Je sais pas, man.
Ben, en même temps, c'est tout le tantôt qui revenait. Tu sais, ah, on reparle de l'intro. Ah, ouais, tout le tantôt qui faisait ça.
OK, je vais vous faire ça, ce sera pas long.
Fait que là, t'as choisi la BTB. Dans le fond, c'était pas tes plans. Au début, toi, tu voulais ton petit bout à Montréal. Là.
Ouais, moi, mon bout, je savais que je voulais revenir en BTB éventuellement. Mm-hmm. Mais je voulais faire mon petit bout à Montréal, faire des gros shows, faire des gros trucs. Mon but, c'était de faire de la tournée. Puis c'était un peu la stratégie d'aller travailler aussi d'un sens pour la tribu.
Ouais, qui fait de la tournée.
C'est
beaucoup,
que la tribu a plusieurs artistes, ils ont beaucoup de trucs. Ouais. Fait que je me suis dit, éventuellement, je fais une bonne job là, je prouve mes affaires, je vais réussir à faire de la tournée.
C'était mon but. Cowboys fringants.
Ah, peut-être pas les cowboys, là. Peut-être pas les cowboys, mais
peut-être Dumas.
Peut-être Dumas, puis des affaires d'en même.
Dumas fringant. Entre deux.
Fait que c'était ça mon but, puis finalement, ben, je suis revenu dans la BTV, puis j'ai fait. Hey, t'as-tu après fait une couple de mois, j'ai fait, je m'ennuie pas pantoute de Montréal.
C'était quoi tes grosses gigs à Montréal? T'as-tu eu le temps d'en faire un peu ou des trucs que t'as trippé, mettons?
Ben, j'ai fait une couple de gigs le fun, mais c'est ça qui arrive, c'est que moi, je suis parti d'un gars qui faisait des shows de bar. Là, je me suis retrouvé dans une salle professionnelle.
Ouais, mais
comme chef
Zénith,
c'est vraiment pas
salle,
le même mood. Là. C'est une grosse salle, le Zénith, un gros Chris de quête de
son. C'est Saint-Eustache, mais c'est gros.
Oui, oui, c'est une grosse salle de 750, mais ça. Okay. Je vais t'avouer que j'avais chanté à pression, puis honnêtement, je me sentais pas prêt à le faire, mais je me suis dit, si je le fais pas, ça marche. Je vais le faire, calice, puis ça a super bien marché. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, je me suis retrouvé que dans les premiers shows que j'ai fait, je mixais en avant des artistes professionnels. Je pense que j'ai fait Grégory Charles, genre, comme troisième show au Zénith.
C'est vrai, OK.
Ouais, puis tu sais, moi, dans ma tête, Grégory Charles, j'étais comme tabarnak. J'étais pas prêt pantoute.
Mais c'était noir et blanc à ce temps-là. C'était son gros show, son gros, sa grosse gig, dans le fond.
Je me rappelle, c'était un gros show. Là. Ouais. Ensemble de Perk, full band.
Il était pas tout seul. Là.
Il était pas tout seul, pantoute. Puis Chris, ça a super bien marché. J'ai eu du fun, là, mais j'étais pas prêt. Mais Chris, à un moment donné, en faisant plein d'affaires, t'es pas prêt à faire, t'es fait caler. C'est fait.
Mm-hmm. En même temps, avec ton retour en région, tu dois avoir plus facilement des gigs.
Ben oui. Tu sais, ici, ta région, il y a pas beaucoup de monde qui font ce que je fais.
À la face, à la qualité que tu le fais aussi. C'est surtout ça qu'il faut le dire. Là.
Je l'apprécie. Ben, tu sais, je vais me lancer des fleurs, mais effectivement, tu sais, je suis un professionnel. Je fais ça de ma vie. Je pense que je mixe bien.
T'es excellent, Thomas.
Merci. Fait que ça a été assez facile. Puis aussi, je suis arrivé et je me suis bien entouré.
On t'a dit que t'es bon.
Non, mais je me suis bien entouré, tu sais, avec tous les boys du théâtre, Frank à Val-d'Or. T'sais, c'est tous des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné une chance, puis je leur ai prouvé que j'étais capable. Puis après ça, j'ai eu aucune misère à me placer. T'sais. Ouais. L'an passé, j'ai fait le FME sur le main stage. Puis t'sais, ça a comme. Quand Frank a su que Yannick pouvait pas le faire, il s'est tourné vers moi tout de suite. Il a fait hey Tom, faut que tu t'en viennes faire ça avec moi. J'étais là, shit, ok, attends un peu. Là. Ben merci. Merci de la confiance.
Ça fait changement du Diableron.
Ouais, ça fait changement du Diableron. C'était cool, le Diableron.
Mais tu l'as fait, t'as pas fait le Diableron pareil l'année passée?
J'ai fait le Diableron deux ans, mais je l'ai pas fait. La seule chose que j'allais faire au Diableron, c'était t'en rejoindre puis boire de la bière.
Ouais, ah oui, on était venu.
DVTR, t'étais là.
Ouais, DVTR, c'était cool.
C'est ça. Vrai, c'était bon, tabarnak.
Fait que c'est ça, tu sais, plein de monde qui m'ont donné des chances de faire mes preuves. Je les ai faites, puis maintenant, tu sais, j'ai des opportunités en masse. Beaucoup plus facilement. Je me serais jamais retrouvé, ne serait-ce qu'à mixer ou faire des moniteurs, si j'étais à Montréal aussi rapidement.
Je pense un qu'on a déjà reçu, Pascal Plante. Lui, il fait ça en pigiste aussi à Montréal. Puis, tu sais, il fait des festivals, il fait le Centre Bell un peu des fois en montage et montage. Mais tu sais, c'est un rythme que tu sais jamais où c'est que t'es le lendemain. Exact. Puis tout était quand même un peu fixe malgré tout au Saint-Eustache.
Ouais. J'étais un peu fixe, mais je faisais de la pige aussi. Okay, je faisais du montage pour LSM. Je faisais des gigs pour d'autres shops.
Tu as un peu de festival aussi à Montréal? Ou...
J'ai pas fait de festival à Montréal. Je suis arrivé en automne, je suis reparti en hiver.
Ouais.
Fait que j'ai fait des shows de salle, j'ai fait des shows au National, au La Tulipe.
Okay.
J'ai aussi travaillé, comment ça s'appelle cette place-là, si j'ai un blanc?
Dans quel coin?
En fait, c'est un genre de studio de répète.
OK.
Dans le quartier Rosemont, me semble, c'est un quartier où il n'y a vraiment pas d'autobus.
OK.
À La Traque. Il y a plein de studios là, il y a plein de locaux, puis il y a deux locaux
de pratique. C'est plein de bandes professionnelles qui se pratiquent là.
Oui, c'est des bandes professionnelles qui vont pratiquer là. Puis j'ai travaillé là un peu avec un de mes potes. Sinon, pas mal de ça j'ai fait.
Puis tu sais, si mettons qu'il y a un band là, qui arrive qui fait comme hey, je l'aime, le petit gars d'Amos, puis t'en ferais-tu de la tournée ou là, t'as dit ça te tente plus?
Ben, tu sais, moi j'ai une job à temps plein, j'ai des contrats signés. Mm-hmm. Je peux pas trop en faire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir faire une petite run. Tu sais, je suis déjà parti faire une petite run de trois dates en tournée avec un band qui s'appelait Africana Soul Sister.
Mm. Ok, c'est qui? C'est bon ça?
Pour sober un de mes potes. Fait qu'on a fait un show à Rouen, un show à Montréal, un show à Laval. Puis ça, c'est le genre d'affaires que je veux faire. Mais moi, partir, être le sentiment de telle bande, je suis plus là, j'habite en Abitibi, ça marche pas.
Partir comme Yannick, mettons, aux États-Unis, avec, tu sais,
c'est pas quelque chose que je peux faire ou que j'ai envie de faire, mais
aller sauver quelqu'un. Mais l'été, il y aurait des possibilités.
T'as le goût d'avoir ta vie en Abitibi tranquille aussi.
Ouais, c'est ça, je suis un peu lâche aussi. Moi, je travaille pour pisser mon camp.
T'as ta terre à Saint-Maurice, je pense.
J'ai pas une terre, j'ai un petit terrain.
Avec le petit boisé, tu fais du 4 roues.
Moi, j'ai pas de petit boisé. Moi, c'est dans le fond, ma maison, c'est un petit terrain. En plein milieu d'une ferme.
OK.
C'est une petite maison qu'il avait bâtie en plein milieu de la ferme pour le fils du fermier.
OK.
Puis là, avec le temps, en tout cas, il y a plein de choses qui sont arrivées. J'ai fini par acheter cette maison-là. Fait que moi, j'habite en plein milieu d'une ferme. Je me lève le matin. Le fermier a aussi des autobus. Fait que je me lève le matin. Il y a 14 autobus qui roulent à côté de chez nous.
Impossible. 14?
Ben, peut-être pas 14.
OK, OK.
Mais qui se préchauffe pour aller à l'école, dans le fond?
Hein? Ouais, ben c'est ça. Ils partent. Moi, je le sais que si je pars. Moi, je travaille à 8 heures. Puis je sais que si je pars à 35, là, je suis baissé. Je suis en arrière des autobus. Faut que je parte à 30.
Ah ouais, OK. Ouais, ça, c'est Maurice, c'est quand même un petit bout en plus. Là. C'est de la route.
Une vingtaine de minutes, m'attendre. C'est pour ça, moi, je suis arrivé un petit peu en retard. Là. Je fais mon meilleur coup de pas. Ben, je suis arrivé comme 4-5 minutes en retard. C'est parce que moi je me rappelais pas que t'étais dans Pressac 2.
Ouais. C'est vrai que c'est Pressac 2. Hein.
Fait que j'ai
Pressac
fait...
Sud.
Je me rappelais pas que de chez nous, ici, c'est genre 1 heure.
Ouais, quand même.
Benoît, c'est un sudiste. Il a pas l'air de même.
Je suis un sudiste.
C'est pour ça qu'il était un peu basané.
Ouais, son surnom, c'est Benoît Lee.
Plein d'affaires, je pourrais dire, mais je vais pas le faire.
Non?
On cherche une raison de te casser depuis tantôt.
Ouais, ben là, je vais me casser si je parle.
Tu faisais quoi en 1618?
Je faisais quoi? Je sais pas.
Toi, si c'était aux États-Unis, tu m'aurais dit pour Donald Trump.
Mais Chris, non. Il y a eu un temps, que, mettons, au début des primaires républicaines,
ouais.
Je trouvais que c'était nouveau, mettons.
Mm. Ouais, toi, Fred, vous étiez des avocats de Trump à cette époque-là.
Ouais.
On va le casser.
Non, mais il a apporté quelque chose de nouveau, mais tu sais, c'est parce qu'il n'y a juste rien. Il n'a rien fait de ce qu'il a dit. Ouais, non, non, après ça, ça a été vraiment différent.
Ouais, c'est vrai, tu me dis souvent quand on parle en dehors du site que tu n'aimes vraiment pas les Mexicains. Tu te rappelles-tu? Tu m'as dit
j'aime
ça la fois où tu m'as touché.
Hein, fait que... C'est pas vrai, ça.
Non, il les adore.
Je pense qu'on va finir là-dessus. Hein? Je suis un raciste. C'est ça qui arrive.
C'est une bonne idée de finir là-dessus.
Pas pour rien qu'on s'appelle l'appropriation culturelle, c'est son idée.
Exactement, j'imagine que si on veut te suivre, on te suit sur tes réseaux sociaux. T'es-tu un peu contenu réseaux sociaux?
La page professionnelle, Thomas Sandman?
J'en ai pas. J'ai pas vraiment de réseaux sociaux.
La page de créatine, est-elle encore existante?
La page de créatine existe. On a encore à peu près 300 likes. Faut suivre ça, mais il y a rien qui va changer.
Il y a pas aucune publication à venir.
J'ai une chaîne YouTube, Mayor Penguin Music. C'est toutes mes beats.
Mary Penguin?
Mayor Penguin comme le maire penguin.
Ah, Mayor Penguin.
C'est une référence à un vieux jeu de Nintendo 64.
On va aller te suivre.
Puis, vous pouvez me suivre là. Puis, si tu fais du hip-hop, tu fais du rap, j'ai genre 75 beats. Tu prends ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, let's go.
Faut te le mettre en contact avec Abel.
Un par année.
Avec?
Maintenant. Faut te le mettre en contact avec Abel.
Abel. Ouais, puis avec le studio.
Adéquat.
Adéquat, ouais.
Ouais, c'est cool ce qu'ils font, ça. C'est un beau projet.
Ouais.
Ça a vraiment l'air de. Ça a vraiment très intéressant ce qu'ils font.
On est supposé collaborer avec eux autres. Là. Ils nous ont fait signe des fois s'il y avait des projets podcasts. On va peut-être aller faire des épisodes là.
Tout dépendant, parce que eux, leur jam, c'est vraiment la prod de musique. Là.
Ouais, ouais, tu sais, on s'entend le. Ma compréhension, le podcast, c'est aussi parce qu'il faut que tu rentabilises ton.
Ouais, puis ils ont la guerre.
Ouais, ça, tant qu'avoir les équipements.
Ouais, puis une autre quelque chose qu'on a compris, c'est que le podcast, c'est payant.
Oui.
C'est vrai, hein, parce que depuis 4 ans, là, on change de Ferrari à toutes les années.
Ouais. Ben, moi, je pense que c'est pas si payant que ça, parce que l'autre fois, je faisais ma comptabilité, puis je me suis rendu compte que AC Productions était dans le rouge dans mes papiers.
Là, t'es payé, là.
Ah, ton 30$?
Ouais, vous me devez 30$, les boys.
Non, là, c'est réglé, là.
C'est réglé.
30$ du montage de...
Non.
C'est sur un autre projet qu'on n'a pas ici.
Un autre projet, on a demandé à Thomas.
Un cossin qui n'a pas marché.
OK.
Ouais. Mais t'as été payé.
Ah, j'ai payé 30$ de...
Mais je suis con. Tu te souviens-tu de l'avoir signé? Moi, je me souviens de l'avoir fait.
Non, mais c'est... Pour vrai, je ne sais pas.
Je pense que je l'ai vu pas.
Fait que là, je suis un raciste et je suis pas fier.
Fait que tu vas-tu prendre ce 30 pièces-là pour le mettre en promo sur YouTube pour tes projets?
Pour créatine.
Fait 30 pièces de plus, ça va de créatine. Non.
34 pièces à date.
En fait, je pense qu'il va sortir l'affaire qu'il avait pas le droit de sortir sur Higgins. Ouais. Il va mettre le 30 pièces de plus.
Il va être content.
Non, mais je vais faire une projection au cinéma.
C'est bon.
Je vous invite tous.
Parfait, j'ai hâte.
Hey, Thomas Chum, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
C'est la première fois qu'on dit ton nom de famille, qu'on te présente ton nom au complet.
Ouais, c'est ça, on fait-tu l'intro, là?
Ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci, Thomas. J'étais bien content. Ça faisait longtemps qu'on en parlait.
Ouais, puis, c'est vrai.
Je suis content que ça soit arrivé.
C'est avant même qu'on le fasse en vidéo qu'on se disait qu'on t'inviterait.
Ben si oui, les shows. Si les shows Terre des Escales sont excellents, c'est entre autres grâce à lui.
Merci, quand c'est pas bon, c'est parce que c'est un Sandman de l'extérieur.
Ouais, c'est ça. Quand ça sonne le cul, c'est parce que c'est un Sandman qui vient avec la tournée.
C'est Sandman.
Il s'appelle Patrick Serge Robert.
Salut!
Merci, Simon.